est responsable de tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain. On va aborder tout ça ce soir. On va également parler de tout ce qui se passe avec Anne Hidalgo et le Parc des Princes. Et on va conclure avec le Mercato. Faut-il recruter cet hiver? Alors, vous êtes dans Paris Central Radio, le deuxième épisode. Bonsoir à vous les gars. Alors, on va commencer avec Barry. Pour toi qui es responsable, sans trop rentrer dans les détails, parce qu'on va faire chacun à son tour.
Qui est responsable, déjà, ce serait compliqué de trouver un seul responsable. En fait, c'est une accumulation de choses qui ont fait que. Moi, si je devais désigner un responsable en rapide, déjà pour moi, c'est la gestion qui a eu lieu avant justement on arrive où on se retrouve actuellement, c'est-à-dire la gestion qui a eu les années précédentes. Après, la question elle est vaste. Moi, j'ai pas envie de trouver un seul responsable, j'ai plutôt envie de voir ce qui ne fonctionne pas plutôt collectivement, parce que voilà, le football est un sport collectif, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Et donc forcément, c'est un peu plus varié. Donc je vais attendre plutôt que tu poses des questions pour que je puisse plutôt développer mon argument plutôt que je monopolise la parole dès le début.
Toi aussi, Ricoba, si tu devais faire un petit résumé, tu attendrais les questions. Tu as quand même quelque chose à dire globalement.
Bah, je suis assez d'accord. En fait, c'est une accumulation de choses qui sont faites depuis plusieurs années. Et c'est difficile de... Tu vois, on en parle souvent, les débats un peu Messi, Mbappé, Neymar, à qui la faute, etc. Mais en vrai, c'est la faute un petit peu de tout le monde. Des joueurs parce que c'est les premiers sur le terrain, mais c'est un peu comme quand un enfant fait une bêtise, c'est aussi l'éducation des parents qui sont derrière, donc forcément Nasser y est aussi pour quelque chose, l'entraîneur aussi, les joueurs aussi, c'est un tout. Maintenant, si on peut développer après petit à petit, on va voir vraiment les responsabilités de chacun, mais en tout cas pour moi c'est vraiment un tout, c'est sûr.
Ok, bah, je vais commencer avec le coach Galtier. Alors, moi, ce que j'entends assez régulièrement, c'est qu'il faut lui laisser du temps, chose qui est tout à fait normale, ça fait que 6 mois qu'il est là. Mais je trouve qu'on fait des comparaisons qui ne sont pas comparables, notamment qu'on compare souvent avec ce qui est à la mode en ce moment, Mikel Arteta, qu'on lui a laissé 3 ans. Déjà, ce cas-là, je trouve que c'est archi pas comparable parce que Arteta, il avait des intentions de jeu depuis le début, il a une façon de jouer qui est claire. Galtier n'a pas forcément ça. Barry, je te laisse continuer là-dessus.
Oui et non, parce que dans tous les cas, lorsque Arteta arrive à Arsenal, alors il n'a pas l'effectif que le Paris Saint-Germain a individuellement, mais collectivement, il a de quoi faire tourner la mayonnaise, j'ai envie de dire. Enfin, je ne sais même pas si on le dit d'ailleurs. Enfin, je suis un peu fatigué, mais bon bref. Il a de quoi travailler. Il y a une matière. Là, au Paris Saint-Germain, il y a de très fortes individualités. On ne peut pas avoir de meilleures individualités au sein d'une même équipe. Ça n'a jamais été vu, que ce soit en attaque, que ce soit au poste de latéraux, que ce soit au poste de défense centrale, même si c'est un peu plus décrié. Et je peux comprendre aussi les réticences de certains. Maintenant, la réalité, c'est que le collectif offensif, étant donné que le Paris Saint-Germain est une équipe offensive, bah, il est en partie dépendant de ce que tu as au milieu de terrain. Et on se rend compte qu'au milieu de terrain, bah, depuis de nombreuses années, c'est là où on a le déficit. Alors, est-ce qu'on peut comparer Galtier à Arteta? Oui et non. On peut se dire qu'il y a des individualités qui vont faire que normalement, tu n'as pas à jouer de la façon dans laquelle tu joues actuellement. Mais on peut aussi se dire que collectivement, il n'a pas la mayonnaise qu'avait pu avoir un Arteta lorsqu'il arrivait. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'Arteta avait un effectif incroyable. Loin de moi l'idée de dire ça. Arsenal, il avait un effectif clairement pléthorique. Je sais pas quoi dire, mais il avait un effectif avec de la qualité, mais qui n'avait pas la volonté ni le talent peut-être pour aller chercher certaines places que le Paris Saint-Germain cherche à briguer. Mais la réalité, c'est qu'il avait quand même un collectif, une base solide. Là, au Paris Saint-Germain, bah, je te rends compte que l'endroit où ton collectif est censé s'amorcer au milieu de terrain, tu n'as que des joueurs qui viennent d'arriver, tu as d'autres qui sont tes cadres qui sont souvent blessés, tu en as d'autres qui viennent d'arriver, qui sont censés apporter quelque chose, mais qui sont aussi souvent blessés. Donc, c'est un peu compliqué pour Galtier.
Et toi, Ricoba, il y a aussi le parallèle avec Klopp aussi, à qui on a laissé du temps. Est-ce que toi, tu penses que Klopp ou Arteta, c'est des exemples qui peuvent être comparables à ce qui se passe au Paris Saint-Germain?
Pour moi, totalement, mais non. Parce qu'en fait, ce qui se fait à Paris, c'est pas ce qui se fait à Arsenal et Liverpool, malheureusement. En fait, Galtier, il a eu plusieurs années où il a super bien bossé à Saint-Etienne. On lui a donné les joueurs qu'il avait besoin, les profils qu'il avait besoin, et il a eu des super bons résultats. La preuve, quelques années après, c'est la descente aux enfers pour les Verts. À Lille, il a gagné le titre devant le PSG. Donc à chaque fois, Galtier, il fait quand même de très bonnes choses. Donc on ne peut pas dire c'est la faute de Galtier, c'est un mauvais entraîneur. Non, simplement, il faut du temps, il faut qu'il s'adapte à ses joueurs, que les joueurs s'adaptent aussi à lui. Et le problème, c'est que à Saint-Etienne, à Lille, à Arsenal, pour Arteta, à Liverpool, pour Klopp, tu as des joueurs qui sont aussi un peu plus malléables. Des joueurs peut-être moins stars, même si tu as aussi des stars forcément, parce qu'il en faut pour gagner une Ligue des Champions, notamment quand on voit Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mané. Mais par exemple, un Sadio Mané, c'est un joueur un peu plus malléable qu'un Mbappé, qu'un Neymar, qu'un Messi, par exemple. C'est un joueur qui va se mettre vraiment au diapason du collectif, alors que certains joueurs peuvent rechigner. Par exemple, Mané, tu le mets en pointe, il va faire le boulot. Mbappé, il va commencer à mettre des pivot games, tu vois. Bon, je ne dis pas que c'est la faute d'Mbappé, mais tu vois, tu as des joueurs quand même plus malléables. Donc, pour un entraîneur, c'est quand même mieux d'avoir des joueurs comme ça à disposition. Encore plus si le gars, c'est une star et a un énorme talent. Maintenant, bah, on le voit, Arteta, il a mis 3-4 ans, ça s'est fait petit à petit. Il avait des joueurs à sa disposition. Ils ont fait aussi le pari sur les jeunes qui arrivent aujourd'hui à maturité. Petit à petit, il a fait venir Thomas Partey renforcer le milieu de terrain. Ils ont renforcé la défense. Tu as les jeunes qui ont explosé sur les côtés. Tu as un manque de numéro 9. Ils ont pris Gabriel Jesus. Et petit à petit, bah, ils vont peut-être être champions. Liverpool, ils ont pris Firmino. Un an après, ils prennent Sadio Mané. Deux ans après, ils prennent Salah et Van Dijk. Et au final, finale de Ligue des Champions 2018, vainqueur de la Première Ligue en 2020, second en 2019. Donc voilà, ça se fait petit à petit. Mais ces gars-là, ils ont les pleins pouvoirs et ils ont pu travailler comme il fallait et avoir les joueurs qu'ils demandaient. Donc forcément, après, si le gars a des mauvais résultats, là, tu peux juger. Mais à partir du moment où au PSG, on ne te donne pas tes joueurs et on t'en met d'autres, même dans les pattes que tu n'as pas demandé, bah là, c'est compliqué pour l'entraîneur de bosser, forcément.
J'irai même un peu plus loin, excuse-moi, j'irai même un peu plus loin sur la notion de temps. Tout à l'heure, tu parlais de laisser du temps au coach. Bah, déjà, construire un effectif, ce n'est pas parce que tu as un effectif exceptionnel que tu vas forcément réussir à avoir un collectif qui tourne dès que tu arrives. Même si les joueurs jouent ensemble depuis de nombreuses années, alors excusez-moi, il y a mon chat qui vient d'arriver. Même si les joueurs jouent ensemble depuis des années, moi je prends l'exemple du Real Madrid. Le Real Madrid, tout le monde dit souvent, ouais, mais c'est le Real. Non, c'est pas que le Real. Il y a aussi une construction derrière qui était cohérente. Je prends l'exemple de lorsque Mourinho arrive. Mourinho arrive avec la deuxième partie des Galactiques de Pérez. Il me semble que lorsque Mourinho arrive, il y a CR7 qui arrive, il y a Benzema, il y a une nouvelle vague qui arrive. Mourinho, il installe des bases en place. Il me semble qu'il est resté 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il installe des bases. Lorsque Ancelotti arrive, Ancelotti qui a gagné, il arrive avec ses préceptes, mais il a un collectif qui est en place. Il a une équipe qui est là. Il a une équipe qui a peut-être soit besoin de l'âme d'un coach ou soit d'avoir un nouveau précepte de jeu, mais en tout cas, il a une base solide. Ancelotti gagne. Alors, je ne sais pas si Benitez arrive avant Ancelotti. Je pense que Benitez arrive avant. Il arrive avant ou après? Il arrive après, non? Si je ne dis pas de bêtises.
Je ne sais même plus.
Mais en tout cas, il y avait une base solide qui a fait que. Et donc, au fil du temps, il a pu construire son effectif. Au Paris Saint-Germain, tu n'as pas le temps de ça. Regardez, Galtier vient d'arriver et on lui tire directement dessus. Zidane, il a pris quand il prend le Real Madrid, il a tout ce qui est créé et il continue sa continuité. Au Paris Saint-Germain, on ne te laisse pas le temps de ça. Et donc, c'est pour revenir à Galtier, comme le dit Tomso, bah, c'est pour vous donner un exemple. Avec le Real Madrid, une grosse institution, ça a demandé du temps, ça a demandé un travail de plusieurs coachs qui ont su ramener leurs pattes, mais surtout avoir un collectif solide. Au Paris Saint-Germain, tu as des individualités très fortes, comme Madrid a pu l'avoir, mais tu n'as pas encore ce collectif qui a été créé sur de nombreuses années qui peuvent permettre à Galtier d'arriver et se dire « En 6 mois, c'est bon, j'ai déjà tout fait. » C'est compliqué à faire.
Ok. Pour dédouaner... Galtier, on va dire que Pochettino a eu le problème avant lui. Je pense que Emery n'a pas eu exactement le même problème. D'où, je me rappelle, une sauce interminable que je me suis pris l'année dernière sur Twitter, où j'avais dit que Tourelle, il avait tué, entre guillemets, le PSG comme on le connaissait, et qu'il avait tué l'esprit collectif du Paris Saint-Germain. Parce qu'on voit la dernière grande performance, entre guillemets, collective, du Paris Saint-Germain, elle était avec Unai Emery. C'était le 4-0 face au Barça. Et depuis que Tourelle, il est arrivé, il y a eu une notion de, entre guillemets, il y a des joueurs, entre guillemets, le jeu dépend d'eux. Genre, c'était à un moment pour Tourelle, il a mis Neymar numéro 10 et il lui a dit, c'est toi le patron. Et les autres joueurs autour de Neymar, ils ont pris un peu le recul et genre, ils se sont pas responsabilisés par rapport à ça. Ils ont dit, c'est Neymar le patron, on le laisse faire. Et là, du coup, on est passé sur Pochettino qui est passé au Mbappé Ball. Et là, on repasse sur Galtier. Et lui, c'est les trois de devant. Mais tous les joueurs qui sont à côté ne se sentent pas responsabilisés pour faire quelque chose. Donc moi, je vous dis, est-ce que vous pensez que ce système que Tourelle il a installé au Paris Saint-Germain, est-ce qu'un coach peut l'enlever?
Ricoba,
Ok, vas-y.
vas-y. Bah, en fait, le problème, c'est que d'avoir des trois joueurs comme ça, forcément, que ça te déresponsabilise,
Déresponsabilise.
déresponsabilise tes joueurs à côté. Et on le voit, finalement, tu en as plein qui perdent leur football. Et on se dit à chaque fois, bah, en fait, c'est un vieux joueur. Mais non, c'est de très bons joueurs. S'ils sont là, ce n'est pas pour rien. Ils ont beaucoup de talent. On l'a vu sur certains profils, notamment Vitinha, les premiers matchs. Mais bah, tu as l'impression qu'il se repose beaucoup trop sur certains joueurs. Après, tu as Neymar qui décroche beaucoup. Donc forcément, un Vitinha, bah, il se fait un peu marcher dessus. Il va lui donner le ballon aussi plus facilement. Si l'équipe elle est un peu compliquée, bah, eux ont envie de prendre le jeu à leur compte. Donc tu vas lâcher la balle. Bref, ça n'aide pas à te développer et à avoir forcément un collectif bien huilé où chacun a bien sa place, a bien ses fonctions. Et forcément, quand tu as en plus déjà une star qui prend beaucoup de place, notamment par exemple un Zlatan, mais là, tu en as trois. T'as trois énormes mecs qui prennent beaucoup de place dans un vestiaire, sur un terrain. Et forcément, bah, à côté, ça peut désinhiber certains joueurs. Ça peut poser problème. Après, personnellement, moi, Tourelle, je suis pas d'accord là-dessus, dans le sens où je trouve qu'il y avait vraiment, je trouve, une vraie âme dans l'équipe. Après, c'est parti un peu en cacahuète petit à petit. Mais je trouve qu'il y a un moment donné où il y avait vraiment une vraie cohésion, notamment le Final 8, où je trouve qu'il y avait vraiment une cohésion, il y avait quelque chose d'hyper intéressant. On avait l'impression qu'il y avait un peu une vraie famille. Après, bon, petit à petit, ça a dégringolé. Mais Tourelle, c'est un peu pareil. Il a dû se battre pour avoir certains joueurs qu'il voulait. Bon, je pense à Idrissa Gueye, ce n'est pas forcément la meilleure prise qu'il aurait pu faire. Mais en tout cas, c'est un joueur où il a dû vraiment se battre pour l'avoir. Et c'est ça le problème pour moi, c'est que les entraîneurs, quand ils veulent mettre leurs idées de jeu en place, ils ont besoin d'avoir certains profils qu'ils n'ont pas quand ils arrivent dans l'équipe. Et si tu ne leur donnes pas, si tu les laisses pas travailler, c'est problématique. Et le problème, c'est que depuis le début, c'est comme ça. Souvenez-vous, Ancelotti, pourquoi il est parti aussi vite? Parce qu'on n'a pas voulu le laisser travailler comme il voulait. On n'a pas voulu lui donner les pleins pouvoirs. Donc forcément, bah, le mec, il se barre. Si on ne le laisse pas travailler, il n'a pas envie. Et d'ailleurs, bah, regardez les coachs qu'on a eu après. On n'a jamais eu de coach de l'envergure de Carlo Ancelotti.
Ouais, Ancelotti, j'ai quand même une autre analyse. Pour moi, Ancelotti, dès que Madrid toque à la porte, il s'en va. Hein. Il l'a fait encore avec Everton, il l'a fait à Paris. Ancelotti, je pense surtout qu'il avait surtout envie d'aller à Madrid. Mais c'est intéressant de parler des trois. En fait, le truc, c'est que les trois sont juste sur deux tempos différents. Tu as Neymar et Messi qui vont pratiquer pratiquement le même football. Le football où on va redoubler de passes ensemble, etc. Et tu as Kylian Mbappé qui, lui, naturellement dans son jeu, il sait être playmaker, il l'a fait durant la saison post-Final 8, et il l'a fait encore durant la saison dernière. Il peut être playmaker, mais là où il est vraiment très bon, c'est dans la transition rapide. C'est lorsque justement bah, tu ne maîtrises pas forcément le jeu, tu lui envoies un ballon, de par sa vitesse et de par ses qualités techniques et athlétiques, il va pouvoir te le bonifier dans tous les cas. C'est là où Kylian Mbappé va être très très bon. Et à contrario, à côté, tu as Neymar et Messi qui, eux, bah, demandent, lorsqu'ils sont ensemble, un jeu peut-être de possession. Où on va faire tourner le ballon ensemble, où on va jouer ensemble, on va essayer de se trouver. Et donc, tu vas naturellement écarter un Kylian Mbappé de ce jeu-là. Moi, je le répète encore, je l'ai dit encore hier dans un space, Neymar Mbappé, ça marche très bien. Neymar Messi, ça marche très bien. Mbappé Messi, ça marche très bien. Mais Neymar Messi Mbappé, alors, c'est très fort individuellement et collectivement des trois, mais ça bride les autres joueurs. La force aujourd'hui du Paris Saint-Germain, c'est aussi sa faiblesse. Comme l'a dit Ricoba, il parlait du fait que les joueurs se sentent bridés. Moi, je prends le cas de Vitinha. Vitinha, en début de saison, on était en défense à 3, milieu à 2, et il y avait Neymar et Messi en numéro 10, et Mbappé en pointe. Vitinha était très très bon parce que déjà, dans sa surface de jeu, tu avais moins Neymar et Messi qui venaient dans sa surface de jeu. Je te prends le match contre Benfica. Là où Benfica avait été très malin, c'est que dès que Neymar prenait le ballon, il lui empêchait de se retourner. Donc, il lui empêchait de pouvoir se fixer face au jeu et de trouver des solutions. Ils ont fait la même avec Neymar. Et Vitinha, là où il avait été très intéressant, c'est que lui, il joue un peu plus bas sur le terrain. Il est donc de trois quarts au jeu, contrairement à Neymar qui, lui, pour récupérer des ballons, qui veut récupérer des ballons lorsqu'il y a un déficit au milieu de terrain, il va devoir redescendre, donc logiquement être dos au but. Vitinha était trois quarts. Et donc, forcément, Vitinha pouvait trouver des solutions. C'est là où on voyait des Vitinha qui trouvaient pas mal les côtés, qui tentaient des fois des projections ou autres. Et on se rend compte que quand on est passé dans le système à 4, bah Vitinha était beaucoup plus bridé, étant donné que dans sa zone de terrain où il est censé évoluer, déjà on jouait un peu plus haut, on jouait un peu plus bas, pardon, on n'était plus aussi haut sur le terrain, on jouait un peu plus bas, donc il avait une plus petite zone à couvrir. Et en plus d'avoir une plus petite zone à couvrir, il se retrouve avec Neymar qui est dans sa surface de jeu, et Messi qui vient aussi dans sa surface de jeu. Je ne suis pas en train de dire que Neymar et Messi sont mauvais, loin de là, c'est deux joueurs incroyables. Mais forcément, avoir un joueur qui vient dans ta surface de jeu pour récupérer le ballon, ça peut être dérangeant, mais tu peux t'en sortir. Avoir deux joueurs, malheureusement, ça oblige les autres joueurs qui sont au milieu de terrain à devoir calquer leur jeu sur tes déplacements et sur ta manière que tu vas avoir de lancer les offensives, étant donné que tu es le playmaker. Et donc forcément, ça bride certains joueurs. Fabien Ruiz, Vitinha. Par contre, là où, et ça j'en parlerai plutôt plus tard dans la vidéo, par contre, il y a des choses qui sont inimputables aux autres, c'est aussi l'envie des joueurs. Et à un moment aussi, il faut que les joueurs ils aient envie. Mais vous voyez cette impression d'avoir plusieurs tempos qui jouent en la faveur ou en la défaveur du Paris Saint-Germain, parce que ça peut jouer en la faveur du Paris Saint-Germain lorsque tu lances des offensives et que tu vois les stats de Mbappé, Neymar et Messi, ça joue en la faveur du Paris Saint-Germain, vu que ça te fait gagner des matchs. Mais à contrario, ça oblige d'autres joueurs à devoir repenser leur football et donc forcément à avoir moins d'impact dans le jeu qu'ils ont pu avoir durant le début de saison ou durant les saisons précédentes dans les autres clubs. Et pour revenir sur ta question, après je m'arrêterai là sur le cas Tourelle. Oui et non, parce que moi je rappelle que Tourelle, il a eu 6 bons mois, après les 6 mois un peu plus fous lorsqu'il est United. Il y a une deuxième vague lorsque la saison Final 8, Tourelle passe en 4-4 de losange. Il y a une nouvelle vague qui a été lancée avec l'arrivée d'Icardi, etc. Mais je rappelle que lorsque Tourelle arrive en finale de Ligue des Champions, lorsque Tourelle arrive en finale de Ligue des Champions, les gars, le mercato d'après, on lui ramène Florenzi, on lui ramène Backer, on lui ramène des joueurs qu'il n'a pas demandé. Et donc forcément, ça tue la dynamique qu'il avait mis en place durant le Final 8.
Ok, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense même sur des joueurs comme Hakimi aussi, ça se voit, c'est des joueurs. Tout le reste de l'équipe autour de Neymar, Messi et Mbappé ne se sentent pas responsables. Donc là, on a fait le tour du sujet Galtier. Donc là, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est parler un peu de la direction et faire un parallèle global entre un projet assez similaire de base quand les Émirats ils ont racheté City et le Paris Saint-Germain et le Qatar. Nous, vu qu'on a un décalage, on est en Ligue 1 et qu'on est un peu plus axé sur le développement de l'image et tout ça parce qu'on n'a pas les droits télé, on n'a pas l'exposition nécessaire. On sait tous les trois, je pense qu'on est moins dur que la plupart des gens avec la stratégie du Qatar, parce qu'on sait quand même qu'elle est nécessaire en fait pour développer le club. Donc moi, la question que je vous pose, c'est, on sait que c'est nécessaire, mais est-ce que ça veut dire, entre guillemets, qu'il faut sacrifier le PSG de maintenant pour le PSG du futur, c'est-à-dire faire comme le Real a fait avec, Perez il a fait avec le Real, et marquer une génération pour que tous les joueurs de la génération d'après veulent signer au Real de Madrid. Donc, est-ce que pour vous, on est obligé de sacrifier maintenant ou est-ce qu'on peut faire quelque chose pour avoir maintenant et après? Je te laisse répondre, Ricova.
Il faut savoir jauger les deux, justement. Après, tu fais bien de le dire parce que là, il y a un exemple qui peut être frappant. C'est Enzo Fernandez, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu le TikTok, mais quand son frère ou son ami lui demande dans quelle équipe tu voudrais jouer, il a dit le PSG. Avec quel joueur tu aimerais jouer? Il a dit Verratti. Et lui n'est pas le seul, et dans le futur, pareil. Je pense aux petites pépites brésiliennes qui arriveront bientôt, qui dans les prochaines années, qui voudront jouer dans le PSG parce qu'il y avait Neymar, ou aux jeunes, les plus jeunes qui voudront jouer au PSG parce qu'il y avait Mbappé, ou dans le passé, Ibrahimovic. Donc forcément que c'est une stratégie aujourd'hui qui va nous servir dans le futur, qui nous sert déjà aujourd'hui, qui va nous servir dans le futur. Nuno Mendes aussi qui aimait le PSG déjà, c'est pour ça qu'il est venu, parce qu'il aime le PSG. Donc voilà, c'est quelque chose qui va te servir. Et forcément, aujourd'hui, tu es une marque mondiale, tu es un énorme club sur la scène européenne. Rien qu'une petite anecdote, je suis parti en Thaïlande il n'y a pas longtemps, j'ai vu un Thaïlandais en scooter, il avait un maillot du PSG. Ça, il n'y avait pas avant, tu vois. Alors, c'est tout bête, mais tu vois que le PSG, aujourd'hui, il rayonne sur la scène internationale. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a un club de football. Donc c'était nécessaire Il faut continuer à développer ça. D'ailleurs, on remercie Jean-Claude Blanc qui va partir. Je ne sais pas s'il est déjà parti, mais bravo pour tout le travail qu'il a pu faire, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et maintenant, il faut vraiment se concentrer aussi sur le football, pérenniser ça, mais se concentrer sur le football parce qu'on est avant tout un club de football. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand même des trophées, des titres, parce que voir Kylie Jenner avec le maillot du PSG, c'est bien, mais voir Mbappé soulever la Ligue des Champions, c'est quand même mieux. Donc maintenant, objectif football. Et il va falloir gérer ça comme un vrai club de football et prendre exemple, même s'il faut, sur les clubs de football qui fonctionnent. Mais pour l'instant, tout ce qu'on fait, on le fait à l'envers, ça c'est sûr.
Malheureusement, ça peut être un problème, et c'est un problème à certains moments, mais c'est aussi malheureusement ta force. Tu n'as pas le choix. Comme tu l'as dit, Nyx, économiquement, les droits TV de la Ligue 1, la faible rayonnance de cette Ligue 1, et aussi le fait que certaines fois en Ligue des Champions, même pas certaines fois, c'est pratiquement tout le temps en Ligue des Champions, tu as des déconvenues qui t'empêchent de pouvoir avoir un certain chèque en arrivant plus loin. Malheureusement, tu es dépendant de ce marketing-là. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, on va en parler encore lorsqu'on parlera du stade, mais économiquement, ils sont obligés de axer leur économie autour du marketing. Malheureusement, si tu vas avoir le même train de vie que les autres clubs, que les autres clubs que tu vas aller chercher, il faut ce train de vie-là. Tu veux arriver dans le dernier carré de la Ligue des Champions, tu ne peux pas arriver avec un petit budget, tu es obligé d'avoir avec un gros budget. On le voit encore avec les galères que tu as actuellement avec la masse salariale. Que ça fait bien longtemps que le Qatar n'injecte plus d'oseille. Et donc forcément, en plus, tu as le fair play financier qui t'empêche de le faire. Et donc forcément, tu es dépendant de tout ça. Là où je suis d'accord avec Ricoba et avec ce que tu as dit, Nix, c'est qu'à un moment, il y a le sportif qui rentre en compte. C'est très bien, comme tu l'as dit, Ricoba, d'avoir des mecs en Thaïlande qui mettent le maillot du Paris Saint-Germain, floquer Mbappé, floquer Messi, floquer même Florenzi, si tu veux, floquer qui tu veux. C'est très bien. À l'époque, on voyait ça qu'à Paris, c'était très rare lorsque tu allais à l'étranger de voir des maillots du Paris Saint-Germain, sauf quand tu allais dans des pays francophones. Aujourd'hui, partout, le Paris Saint-Germain rayonne. Maintenant, il ne faut pas dissocier le sportif de cela. Moi, quand on parle de sportif, j'ai envie plutôt de parler cette fois de la direction sportive, c'est que des fois, on se rend compte que tout le monde le voit, et je pense que même la direction sportive le sait, qu'on a un énorme déficit au milieu de terrain. Et pourtant, à chaque fois qu'on a des noms qui ressortent, c'est des attaquants. Léao, Joao Félix. Et tu vois jamais des noms, à part Tchouaméni qui a été la piste chaude durant l'été où tout le monde se disait waouh, triple kill, il va arriver, patati patata. À part Tchouaméni, tu te rends compte qu'il n'y a jamais de grands noms au milieu de terrain qui est ciblé. Jamais. Alors il y a eu N'Golo Kanté, il y a eu un moment Alan qui était un moment, on va dire, l'un des joueurs courtisés sur Mar. Mais ces joueurs ne viennent jamais. Ces joueurs ne viennent jamais. Et à contrario, tu vas toujours chercher des attaquants. Malheureusement, lorsque tu as investi sur Neymar et Mbappé, ça t'a contraint derrière d'aller chercher des joueurs de second couteau. Il y a aussi le départ d'un joueur aussi, le départ de Rabiot qui t'a fait extrêmement mal. Donc oui, le marketing pose problème, mais je pense que là, on trouve un faux coupable. On trouve encore un faux coupable parce que dans tous les cas, le Paris Saint-Germain sera toujours dépendant du marketing tant que la Ligue 1 n'arrivera pas à ramener les mêmes droits TV que ne serait-ce que la Liga, ne serait-ce que la Bundesliga, ne serait-ce que... On ne va pas parler de ceux de l'APL parce que ça, c'est un autre monde encore. Mais tu n'arriveras jamais à concurrencer ces équipes-là si malheureusement, tu t'attends uniquement avec des revenus que tu as avec les droits TV. De toute façon, on en reparlera durant le débat sur le stade. Ça va être très intéressant. Je pense que je vais un peu plus développer ma pensée dessus.
Ok, les gars. Donc là, maintenant, le prochain à passer sur le banc des accusés, ça va être Monsieur Campos. Qu'est-ce que, entre guillemets, Campos pourrait mieux faire cet hiver, ou qu'est-ce qu'on pense de ce que Campos il a déjà fait jusque-là? Est-ce que il a réussi à passer ce qu'il a l'habitude de faire dans des clubs qu'on va dire de troisième zone entre guillemets à un club de première zone? Est-ce que je suis désolé pour les Lillois et pour
les troisième zone. Il a même pas dit la deuxième zone, il a dit la troisième. C'est-à-dire il a sauté encore un cran.
la deuxième, c'est genre la zone où Paris elle est actuellement. C'est
Paris, c'est première zone quand même. Moi, je dirais que la deuxième zone, c'est Europa League, c'est Monaco. Troisième zone, c'est vraiment la Conference League et encore derrière. Enfin, après, c'est mon avis, mais ça, c'est un faux débat.
Ok. On va revenir sur le sujet. C'est Barricka pas l'an dernier. Ok, les DS Campos, je te lance là-dessus, Ricoba. Qu'est-ce que tu penses de Campos?
À Campos, il y a plein de choses à dire. Campos, il y a plein de choses à dire. En fait, déjà, premièrement, il est venu remplacer Leonardo. Et il n'est pas directeur sportif. Il est conseiller officiel du sportif. Donc déjà, bizarre, pourquoi tu n'es pas directeur sportif? Ensuite de ça, il est à côté directeur sportif du Celta Vigo. Donc le mec, il gère deux clubs. Alors, je pense qu'il y a moins de travail à faire au Celta Vigo qu'au PSG, mais justement, il y a tellement de choses à faire au PSG. Il est arrivé, il le sait lui-même, il y avait un chantier sans nom. C'est pour ça qu'il faut lui laisser du temps à lui aussi. Mais c'est pas normal. Dans quel autre club tu vois ça? Celui qui a fait 10 ans à Liverpool, là, j'ai oublié son nom, là, il est parti.
Michael Edwards.
Voilà. Tu crois que lui, il travaillait dans un autre club à côté? Non. Mais tu vois, des fois, au PSG, il y a des choses, c'est assez dingue. C'est... Enfin bref. Et du coup, il faut lui laisser du temps. Parce que quand il arrive, déjà, cet été, il ne faut pas l'oublier, il avait Antero Henrique dans les pattes. C'était au final Antero Henrique qui était là pour gérer les ventes. Et de ce qui se dit, c'est Campos qui lui a donné une liste de joueurs qu'il voulait. Et Antero a peut-être trop négocié, il n'a pas réussi à avoir certains profils. Du coup, Campos n'était pas content, etc. Bon, voilà, encore un embouteillage, encore des problèmes de, voilà, de gestion. Maintenant, au final, il n'a pas pu recruter les joueurs qu'il voulait. Soler notamment et Fabien Ruiz étaient des seconds couteaux entre guillemets, mais n'étaient pas les profils qu'il voulait de base. Il voulait aussi Skriniar, il n'a pas pu, jeu de négociation. Maintenant, au final, on peut voir aussi par rapport à tous les indésirables qu'il y avait, c'est t'arrives, il y a un chantier. Tu n'as plus de budget en plus avec le fair play financier, là, c'est compliqué. Tu viens de prolonger Mbappé 50 millions par an, t'as Messi, t'as Neymar, t'as Ramos, t'as des salaires de fou, t'as prolongé Verratti. Bref, c'est compliqué financièrement. Donc, en plus de ça, tu dois faire partir tout le monde. Mais finalement, les gars sont tous prêtés. Icardi, tu prends son salaire aussi en jeu. Donc, bah, c'est compliqué de se retourner et de faire les moves qu'il voudrait. En plus de ça, il a fait de très bonnes choses à Lille et à Monaco notamment, qui nous ont chippé le titre. C'était lui le directeur sportif. Donc, c'est quand même un mec qui s'est bossé. Mais par contre, là où on peut se poser la question, c'est le fait qu'il ait, comme tu disais, géré des clubs moins forts, moins grands que le PSG.
Madrid.
Là, tu as un club que tu dois gérer qui est compliqué, qui n'a rien à voir avec ce que tu as fait précédemment, et où tu as Messi, Neymar, Mbappé, où tu as des stars comme ça, où il faut trouver des profils qui vont matcher avec eux, qui vont. Et ça, ce n'est pas facile. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, il faut laisser du temps. C'est obligatoire de laisser. Déjà, même cet hiver, il aura même. Enfin, on va en reparler tout à l'heure, ça va être compliqué. Donc, laissons au moins cet été, laissons 1 ou 2 ans avant de pouvoir juger. Mais ce n'est pas en changeant Galtier, ce n'est pas en changeant Campos maintenant ou dans un an que quelque chose va évoluer au PSG. Il faut de la continuité, tu es obligé.
Bah Campos, oui et non. Déjà, moi, je pense que... Alors déjà, juste pour la notion de conseiller sportif, il faut savoir que Campos, il n'est pas salarié du club. C'est sa société. Donc lui, il est en entrepreneuriat. Et donc lui, on va dire qu'il est directeur sportif externe du Paris Saint-Germain. Donc la notion de directeur sportif et de conseiller sportif, je pense plutôt qu'elle vient de là. Maintenant, il est conseiller sportif aussi au Celta Vigo. Alors ça, on peut dire oui, ça peut être dérangeant. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Il a une société qui bosse aussi. Ce n'est pas les mêmes profils que tu vas chercher au Paris Saint-Germain ou au Celta Vigo. Donc pour moi, ça ne rentre pas en conflit. Et en plus, le Paris Saint-Germain et le Celta Vigo ne sont pas deux clubs qui vont se lutter sur des joueurs, sur les mêmes types de joueurs, étant donné qu'ils n'ont pas les mêmes ambitions. Enfin, ça, c'était juste mon idée dessus. Maintenant, sur le cas Campos, pour moi, Campos, il vient avec un plan sur 2 ans. La première saison, c'est quoi? La première saison, le vrai problème, c'est de libérer de la masse salariale. Tu as des joueurs qui sont là, qui sont payés énormément, et en plus, qui, en plus d'avoir des gros salaires, ne donnent pas satisfaction en termes de niveau de jeu. Donc, il faut que ces joueurs-là, il faut que tu les libères, il faut que tu les prêtes à droite à gauche, parce que tu n'arrives pas à les vendre au vu de leur salaire. Il y en a certains que tu as vendus, mais bon, tu as même lâché des gros chèques pour les vendre ou pour les libérer comme RR. Donc, je pense que c'est quoi? Le but, c'est quoi? On les prête, malheureusement, dans tous les cas, qu'ils soient chez nous ou ailleurs, ils vont avoir un gros salaire. On les prête, comme ça, au moins, on économise une partie de leur salaire. Avec cette partie des salaires, on va chercher d'autres joueurs qui vont combler l'effectif, qui sont des joueurs qui ont du talent aussi, il faut se dire les choses. Hein. Les mecs qu'on va chercher, c'est pas forcément des peintres, même si ils sont mauvais actuellement, c'est pas forcément des peintres. Ça, j'y reviendrai encore pas. J'y reviendrai ensuite quand on parlera des joueurs. Et donc, je pense que son plan, il est sur 2 ans. Première saison, on prête. On va chercher des joueurs avec le budget qu'on a. On prend des joueurs qui vont rester peut-être 5 ans chez toi, mais qui vont pas te coûter le même oseille que les mecs qui sont prêtés. Parce que les mecs qui sont prêtés, le trois quarts partent en 2024 et une partie part en 2023. C'est-à-dire que là, déjà cet été, il y a beaucoup de joueurs qui vont commencer à Tekal. Et en 2024, il y en a d'autres qui vraiment vont partir. Donc, c'est un plan sur 2 ans. Petite enveloppe. Donc, on multiplie les prêts. Par exemple, là, je vois Anthony qui parle de Kitike. Et Kitike, on est obligé de vendre Kalimundo, étant donné qu'il faut qu'on fasse rentrer un chèque. On va chercher un petit prospect qui a du talent et qui potentiellement peut devenir un grand joueur ou non, mais en tout cas, qui a du talent, un joueur d'avenir. On le prend en prêt, on payera ça la saison prochaine. Et donc, en 2024, les autres joueurs, là, les Wijnaldum, etc., partent. Et là, on va pouvoir avoir un mercato cohérent. Au final, tu regardes quoi? Tu regardes que la ligne défensive, elle est faite. La ligne offensive, elle est faite. Même si la ligne défensive, on peut dire Marquinhos ou autre, et Skriniar, etc., mais globalement, elle est faite. Ce n'est pas là où tu as ton plus gros chantier. Au milieu de terrain, tu prends des joueurs qui, soit vont donner satisfaction et vont pouvoir être des titulaires ou un joueur d'avenir comme Vitinha, ou soit, là, cette saison, cet été, lorsque tu auras un autre chèque, parce qu'en général, tu as quand même un chèque qui est assez conséquent, tu vas pouvoir faire all-in, soit sur un numéro 9, soit sur un milieu, ou soit sur les deux. Et donc, tu as des joueurs aussi qui vont être là pour faire le complément. Vu que tu as des joueurs que tu as prêtés, il faut que tu aies des joueurs de complément. Mais tu as une enveloppe très fine. Donc, c'est compliqué de juger le mercato de Campos. Après, je ne vais pas dédonner le DS ou autre. C'est lui qui va chercher les joueurs. C'est comme tout à l'heure avec Galtier, j'ai oublié de le dire. C'est lui qui est entraîneur. Donc, forcément, tu as voulu cette responsabilité-là. Il faut aussi assumer lorsque certains joueurs que tu vas chercher ont des manques. Il faut aussi l'assumer. Mais moi, pour moi, je trouve qu'on trouve à chaque fois des coupables. Là, c'est Campos ou Galtier. Avant, c'était les coachs. Avant, c'était aussi les directeurs sportifs. À un moment, après, des fois, on dit c'est les dirigeants. Des fois, on dit c'est le président Nasser. Pour moi, à un moment, les gars, il faut cibler autre chose. Et je pense qu'on va parler juste après le sujet. Pour moi, à un moment, il faut parler aussi des joueurs. Faut parler aussi des joueurs et même pas du talent. Parce qu'il faut se dire les choses. Hein. Les joueurs que là, on est en train de terminer, les Carlos Soler, les Fabien Ruiz, etc., 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 ce n'est pas des peintres. Moi, Fabien Ruiz, j'ai fait une vidéo sur lui, je sais quelles sont ses qualités. Ce n'est pas des peintres non plus, les mecs. Ce n'est pas des peintres non plus. Carlos Soler, alors on peut dire on peut dire ce qu'on veut. Hein. Ils n'ont pas la stature pour être dans un club comme le Paris Saint-Germain qui veut briguer une place finale en Ligue des Champions. Oui et non. Ça, on peut parler de tout ça. Je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord avec vous. Par contre, il y a une chose qui ne trompe pas, et je vais en parler juste après parce que je pense que tu vas lancer le sujet sur les joueurs, c'est ça, Nix? Hein?
Yes.
Donc je vais en parler juste après et je laisse mon argument pour après.
Ok les gars, bah selon ce que vous avez dit, bah Campos il sort du tribunal avec du sursis. Donc je
Exactement.
pense qu'il va être jugé cet été. Là, sur le
Même
banc
l'été
des
d'après, même.
accusés, on va faire passer des gens qui le méritent. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, on va parler des joueurs.
Merci.
Alors, moi j'ai une question plus ou moins existentielle sur le Paris Saint-Germain. Ma question est, pourquoi les joueurs signent au Paris Saint-Germain? C'est une question que je me pose depuis quelques matchs que je vois. Pourquoi ils viennent? Moi, je n'arrive pas à répondre à cette question parce que quand tu le vois sur le terrain, tu n'as pas l'impression que les mecs, ils ont envie de jouer pour le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là ou si c'est par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure où ils sont déresponsabilisés par rapport aux autres. Mais je ne sens pas des mecs qui sont là pour le maillot. Rekoba, qu'est-ce que tu en penses?
Ah, c'est une question compliquée. En fait, il y a plein de choses. Alors, il y a une première vague qui est arrivée, on va dire, depuis le rachat de QSI jusqu'à, on va dire, 2015-2016. Je vais l'appeler l'ère Zlatan. Cette vague-là, tu t'es appuyé sur des cadres qui avaient déjà une très bonne mentalité et qui sont venus forcément pour l'argent, déjà, parce que bah, ils ont été grassement payés, mieux payés que dans leur club, pour les responsabilités aussi qu'on leur a données. Parce que, bah, on leur a donné les responsabilités de, on va dire, de l'équipe, pas de gérer ce club, mais de gérer, on va dire, le sportif, de performer en Ligue 1, de gagner les premiers titres de l'ère QSI et enchaîner, de donner cette mentalité, d'améliorer la mentalité, les entraînements, travailler plus, etc. Donc, ils avaient vraiment un projet intéressant, stimulant de faire grandir ce PSG. Ça, c'est vraiment les Zlatan, les Thiago Motta, les Thiago Silva, etc. Et ils ont inculqué ça et on s'est vraiment bien développé. On avait une vraie belle équipe et on a eu les résultats qu'on connaît. Maintenant, petit à petit, ces joueurs-là sont arrivés au terme de leur contrat, de leur âge, ce qu'on veut, etc. Et il y a eu la deuxième vague où on s'est appuyé sur des joueurs, des cadres qui étaient censés reprendre le flambeau. Marquinhos, des joueurs qu'on a recrutés, Neymar, les Verratti qui est toujours là. Aujourd'hui, ce sont tes cadres. Aujourd'hui, ces joueurs-là, ce n'est pas les cadres que tu attendais. On peut comparer la mentalité, l'envie sur le terrain, la répétition des matchs, la répétition du contenu. Ce n'est plus du tout la même chose. Avant, on roulait sur la Ligue 1. Certes, aujourd'hui, elle est plus forte, c'est vrai, mais le contenu des matchs, je suis désolé, il n'est pas bon. Et même si des fois on faisait des grands matchs contre les grandes équipes, aujourd'hui, si tu regardes les 2 dernières années, c'est compliqué contre les grosses équipes de Ligue 1. Donc ça avant, ça n'arrivait pas. Donc il y a un problème dans la mentalité, il y a un problème dans le contenu, parce que pour moi, les cadres qu'il y a aujourd'hui ne sont pas au niveau des cadres qu'il y avait avant dans la mentalité, dans l'exigence, dans la répétition des grands matchs, du travail, etc. Et on le voit d'ailleurs dans les grands matchs, ça ne tient pas, on n'arrive plus à faire ce qu'on faisait avant. Et ensuite, tu as les joueurs qu'on recrute. Aujourd'hui, les joueurs qu'on recrute, qu'est-ce qu'on leur a dit la plupart du temps? Parce que les années d'avant, il y avait faire grandir le club, gagner la Ligue 1, etc., etc., remporter des trophées. Aujourd'hui, quand tu as gagné la Ligue 1 6, 7 fois d'affilée, 10 fois, je crois qu'on a 10 titres aujourd'hui, eh ben, les joueurs que tu recrutes, quand tu fais venir Neymar et tous ceux qui arrivent après, tu leur dis quoi? L'objectif, c'est la Ligue des Champions. Et ils le disent en conférence de presse. Je suis venu pour gagner la Ligue des Champions. Ça veut dire que la Ligue 1, on n'y pense même plus. Le travail, la rigueur, la répétition des matchs en championnat tous les week-ends, etc. Ça, on s'en fiche. Développer encore le club, ça n'existe plus, ça. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, les cadres qui ont repris et le discours aussi des dirigeants n'est pas bon. Et aujourd'hui, je ne retrouve plus ce qu'il y avait avant. Et donc, pour moi, c'est un problème. Et c'est que bah, tout ce qui a été transmis n'a pas été gardé. Et pour moi, c'est bah, c'est ces cadres-là sur lesquels tu t'es appuyé et qui aujourd'hui sont défaillants.
Là, ça va être intéressant parce que c'est Barry qui va répondre à la question pourquoi les joueurs signent au Paris Saint-Germain et je sens qu'il en a beaucoup à dire. Vas-y, Barry.
Alors déjà, je vais reprendre tout ce qui se dit depuis tout à l'heure dans les commentaires pour défiler. Alors, j'ai entendu parler de l'argent. Bah, cette année, malheureusement, on peut pas dire ça. Parce que les joueurs viennent, ils ont les salaires qui correspondent à ce qui se fait sur le marché pour leur niveau de jeu. Donc, ils ne sont pas surpayés. Donc ça, pour moi, on peut l'enlever. Cadre de vie, la ville de Paris, etc. L'exposition, etc. Possiblement, mais bon, je pense pas. Je pense que, ouais, même si Paris est une belle ville, je pense pas que ce soit ça. J'ai entendu, ils ne viennent pas pour le maillot. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de joueurs qui viennent pour le maillot. Hein. Dans tous les clubs, en général, quand on vient, c'est que. Puis même à l'époque, hein, on allait dans des clubs qui avaient des ambitions. On allait dans des clubs qui avaient envie de se développer. Et en termes d'ambition, bah, le Paris Saint-Germain, tu ne pourras pas trouver mieux. On a trouvé la direction. On a dit peut-être que c'est la direction qui donne de mauvaises indications aux joueurs. Oui et non. Pour moi, oui et non. Je pense que quand tu arrives au Paris Saint-Germain, que ce soit dans d'autres équipes, on t'explique le projet, on te donne des objectifs comme partout. Tu es quand même bien suivi, qu'on le veuille ou non. Alors, on n'est pas dans les petits papiers, donc on ne peut pas savoir comment ils sont suivis. Donc, je ne pense pas que ce soit ça. Le niveau, on peut parler du niveau. Le niveau, comme je l'ai dit, alors les noms qui sont arrivés, ce ne sont peut-être pas des top noms. C'est même pas, ce ne sont pas, ce ne sont pas de top noms. Ce ne sont pas le gratin du monde du football. Ce n'est pas des Modric Prime, ce n'est pas des Brozovic, etc., etc., etc. Mais ça reste quand même des joueurs qui ont du talent. On peut se dire ce qu'on veut. Moi, vous avez vu, Carlos Soler, c'est un joueur que je n'aime pas forcément, vous le savez. Maintenant, Carlos Soler, ce n'est pas un peintre non plus. Il a quand même des références derrière. Il vient de Valence. Comment il s'appelle? Fabien Ruiz vient de Naples. Les joueurs qui sont arrivés avant, Danilo viennent de Porto, etc. Donc ça, pour moi, le talent, ils l'ont. Maintenant, pour moi, il y a une chose qui ne trompe pas. Et ça, c'est sur ça que j'ai envie de maximiser. À chaque fois, on trouve les coachs. À chaque fois, on dit c'est la direction sportive. Mais il y a une chose qui ne trompe pas sur le terrain. Et Nyx l'a rappelé en parlant des derniers matchs. C'est l'envie. L'envie des joueurs. Et ça, l'envie, tu pourras dire ce que tu veux. Le coach va pouvoir te la donner comme un comment il s'appelle le coach qui était à El Loco là. El Loco peut le donner à certains
Bien
joueurs
sûr.
qui Bielsa, qui est incroyable. Les joueurs derrière deviennent incroyables, etc. Comme le mec qui est parti de son équipe là, qui est parti à City, là, je vais son nom. Le milieu là. Bref.
Calvin Phillips.
Calvin Phillips, voilà. Il va pouvoir te la donner l'envie. Mais il y a une chose qui ne trompe pas. L'envie, c'est toi qui l'as. L'envie, c'est toi qui vas la chercher. Le coach va pouvoir te l'inculquer. Le club va pouvoir te l'inculquer. L'envie. Tu vois, on parle souvent de la tactique du coach. Oui, la tactique du coach est importante dans la vie. Pour moi, dans l'envie sur un terrain, il y a trois choses qui rentrent. Il y a la tactique du coach. On a attaqué les Galtier, on a dit que c'était Galtier, etc. Il y a la manière où tu as perdu là où tu as perdu ton ballon lorsque tu étais en bloc haut ou bas, bah forcément, ça sera pas la même manière de faire le pressing, de se replacer. Mais la troisième chose, c'est l'envie. Et ça, je parle encore sur le terrain. Je veux reprendre l'exemple du match à Rennes et les autres matchs. L'envie. D'avoir envie d'aller mouiller le maillot, l'envie d'aller se replacer lorsque tu perds le ballon, l'envie. Et ça, les joueurs qui viennent, ils n'ont aucune envie. Moi, je le vois. Je le vois. Alors, certains diront oui, mais ils n'ont pas envie parce que dès qu'ils arrivent, ils voient qu'il y a des statues, etc. Non, pour moi, c'est un faux débat. Les statues, ça, c'est des bêtises. Parce que tu prends l'exemple de Kimpembe, il a eu envie de réussir. Il a réussi au Paris Saint-Germain. Tu prends l'exemple de Rabiot, qu'on le veuille ou non, c'est une petite 1-1 par rapport à ce qu'il a fait. Il a eu envie de réussir au Paris Saint-Germain. Verratti, lorsqu'il arrive, c'est un jeune, encore plus jeune que Vitinha. Il a eu l'envie de réussir. Il a eu l'envie. Et ces mecs-là, ils n'ont aucune envie. Et moi, ça me dérange. Sur le terrain, ils perdent le ballon, ils marchent. Alors les milieux de terrain qui sont censés faire les pressings aussi, tu vois, parce qu'on dit souvent c'est la ligne offensive. Non, non. L'envie. Et ces joueurs-là manquent d'envie. Et j'en ai marre qu'on trouve à chaque fois des coupables. On dit c'est le coach, on dit je sais pas quoi. Ouais, mais c'est vrai, c'est Campos qui est parti sur ces joueurs-là. Alors peut-être qu'il n'a pas bien ciblé les profils, peut-être qu'il n'avait pas bien vu forcément certaines choses. Mais force est de constater que ces mecs, lorsqu'ils arrivent, au début, ils sont peut-être pétris d'envie. Alors, on ne sait pas ce qui capote à un moment. Je prends le cas de Sarabia encore. Lorsqu'il arrive, il était pétri d'envie. Le mec courait partout. Tu vois. Et aujourd'hui, les gars n'ont plus envie d'être sur le terrain. Ils n'ont plus envie de mouiller le maillot. Ils n'ont plus envie. Alors, à un moment, les gars, je l'ai répété dans la dernière vidéo, on est des supporters. À un moment, on va vous faire comprendre. L'année dernière, on leur a fait comprendre. Notre patience a des limites. Ils ont sorti le match à Madrid. Et derrière, ils nous ont fait la bêtise qu'ils ont fait à Madrid. On l'a encore fait comprendre. Tu vois, je trouve quand même que c'est quand même étonnant d'avoir des joueurs qui sont très forts balle au pied, mais qui manquent d'envie tout simplement. Alors on dit souvent non, c'est pas au coach de donner l'envie. Oui, c'est au coach de donner l'envie, mais c'est aux joueurs aussi d'avoir envie. Parce que justement, le coach leur donne envie. Je pense que le coach leur donne envie. Le coach, il a envie de réussir. Et forcément, c'est sa place qui est en jeu. Bien sûr qu'il a envie que les joueurs réussissent. Mais à un moment, les joueurs aussi, ils ont un travail personnel à faire. C'est comme on prend le cas de Marquinhos, que je défends pas mal. Mais Marquinhos, faut qu'il ait envie aussi de revenir mentalement. Tous ces mecs-là. C'est quoi ça? C'est qu'en fait, à chaque fois, ça va être le coach, ça va être les supporters, ça va être si, il faut leur donner de l'amour. Non, non, non. Il faut que tu aies envie aussi de qu'on te donne l'amour. Il faut que tu aies envie aussi que le coach te regarde. Il faut aussi que tu aies l'envie. On prend l'exemple des jeunes. Alors, après, je m'arrêterai là. On dit souvent que les jeunes, les jeunes, regardez, lorsqu'ils rentrent, ils ont de l'envie. Bah, déjà, quand tu es jeune, forcément, tu as peut-être plus d'envie qu'un mec qui a une carrière derrière lui. Parce que toi, tu as une place à défendre, tu as une carrière à défendre derrière. Si tu flopes, c'est compliqué de relever la pente quand tu es jeune. Oui, d'accord, très bien. Mais lorsque les jeunes y rentrent, peu importe que ce soit le Paris Saint-Germain, peu importe que ce soit les Titi. Tu prends le cas de Xavi Simons, il a été élevé au Paris Saint-Germain, entre guillemets, mais le gars, il avait plus d'envie que d'autres mecs. Alors oui, il est jeune. Oui, quand tu es jeune, tu as envie de montrer aux vieux, tu as envie de prendre leur place. Mais le mec montrait de l'envie. Des mecs comme Fabien Ruiz, ils viennent d'arriver dans ce club, ils traînent la patte. Alors que Fabien Ruiz, vous savez, j'ai fait une vidéo sur lui. Vitinha, il a montré de l'envie 4 mois, finalement, il montre plus d'envie. À un moment, les mecs, il faut arrêter de tacler les coachs, il faut arrêter de tacler un tel. Il faut qu'aussi les joueurs changent leur mentalité. Et ça commence à me déranger d'avoir des mecs qui traînent la patte et qui se permettent sur le terrain et même en dehors d'être mollasson. Je m'arrêterai là, mais tout à l'heure, j'ai vu une vidéo d'un truc technique qui se passe durant l'entraînement. Et il y avait, je crois, une équipe de jeunes contre l'équipe des titulaires, on va dire les vieux, entre guillemets, les Fabien Ruiz, etc. Et je vois des garbis, des trucs qui sont en train de courir et ils ont envie de faire mal à l'équipe adverse. Des mecs, ils marchent. Tout le monde les regarde. Ils regardent les petits faire un 1-2 en triangle dans un petit espace. C'est pas possible. Même à l'entraînement, vous n'avez pas la bonne mentalité. Et en plus, c'est ce qui ressort parce que la dernière info qu'on a eue de Galtier, c'est qu'il estime que depuis quelques temps, l'envie n'est plus la même au sein du club. Et ça, va falloir changer parce que sinon, on va le faire comprendre, nous, les supporters.
En fait, Barry, là, tu m'as donné… je me pose une autre question après ce que tu as dit. Est-ce que c'est pas contagieux, en fait? Est-ce que c'est pas simplement ça? Parce qu'on voit, par exemple, je sais pas si vous vous rappelez Ancelotti, quand il arrive au Bayern, il essaie de mettre quelque chose en place. Et tous les quatre de l'équipe le bloquent, en fait. Et il n'a pas la main, il ne peut rien faire jusqu'à ce qu'il se fasse stage. Et moi, je pense au niveau des joueurs du Paris Saint-Germain, quand tu vois un joueur comme Vitinha, il arrive, il a de l'envie, il court partout. Là, ça fait à peine 3 mois qu'il est là, on ne le voit plus. Donc moi, je me dis, est-ce que si tu veux faire une analogie par rapport à ton taf, genre, tu arrives dans une boîte, tu vois, toi, tu es prêt à taffer, tu viens de signer ton CDI et tout, tu dis, vas-y, je vais taffer, je vais progresser, je vais obtenir des promotions. Et après, tu vois que personne ne fout rien. Genre, tu es là, tu es en train de charbonner. Tu vois, personne ne fout rien autour de toi. Tu dis, écoute, c'est peut-être la mentalité de la boîte. Moi aussi, je ne vais rien foutre. Je vais me poser, je vais attendre que mon salaire il arrive. Et puis voilà, si personne taffe, pourquoi moi je vais taffer? Je suis pas plus débile qu'un autre. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
C'est exactement ça. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la mentalité. Parce que j'ai vu des commentaires, oui, mais l'époque Zlatan, ils sont arrêtés en quart de finale de Ligue des Champions. Oui, mais moi, je ne parlais pas des résultats. Les résultats, après, voilà, c'est le football. Le 3-5-2, etc. Ce qui s'est passé, on ne va pas revenir dessus. Mais au moins, il y avait cette mentalité, ce professionnalisme. Ibra, quand il y avait 4-5-0, si tu ne donnais pas le ballon, si tu relâchais, tu te prenais une gifle. C'est tout. C'était comme ça, la mentalité des cadres de l'équipe. T'avais des mecs, des professionnels jusqu'au bout. Ils arrivaient 2 heures avant à l'entraînement. Ils sortaient pas la veille. Après, je vais pas revenir sur l'hygiène de vie des joueurs parce que je trouve qu'elle s'est quand même nettement améliorée pour beaucoup d'entre eux. Mais il y avait un vrai professionnalisme et il y avait une exigence au quotidien, et que ce soit en dehors ou sur la pelouse. Et ces joueurs-là, on les retrouve pas aujourd'hui. Les cadres qu'on a ne sont pas à la hauteur de ces gens-là. Quand on voit Ibrahimovic, même Lavezzi, tu vois, hein, Lavezzi, des fois, il faisait des conneries, il sortait en boîte, mais sur le terrain, mais il donnait sa vie sur le terrain, Lavezzi. Alors, on peut dire ce qu'on veut. Oui, Lavezzi, il est moins talentueux que les joueurs qu'on a aujourd'hui, mais Lavezzi, il donnait tout sur le terrain. Il allait au charbon. Le milieu de terrain qu'on avait, c'était pas Casemiro, Modric et Kroos, mais c'était Verratti assez jeune, Thiago Motta, Matuidi. Mais c'est des mecs qui en voulaient, qui donnaient tout sur le terrain. Et forcément, du coup, bah, ça a élevé le niveau d'un Verratti, par exemple. Le Verratti Prime, c'est le Verratti qu'on a eu à l'époque, Thiago Motta, Matuidi, ce n'est pas celui qu'on a aujourd'hui. Parce que ça élève le niveau des joueurs, forcément. Et un Vitinha, tu le mets dans le PSG d'avant, bah, il est bien meilleur qu'aujourd'hui. Parce que justement, c'est contagieux. Et un Marquinhos était meilleur avec un Thiago Silva, parce que c'est contagieux. On a eu des Tauliers, des Alex, des mecs qui... C'était des vrais gars, tu vois, avec une vraie mentalité. Et aujourd'hui, malheureusement, les cadres sur lesquels on s'appuie, bah, ils n'ont pas cette mentalité-là. Pour moi, c'est ça le problème.
Et à l'époque aussi, il y avait une meilleure structure d'équipe aussi. Parce que je ne pense pas que Laurent Blanc est un meilleur entraîneur que Galtier. Hein. Non, je le cache. Je ne pense pas que ce soit un meilleur entraîneur que Galtier. Mais il y avait une meilleure structure d'équipe. Exactement. À l'époque, tu n'avais pas des joueurs qui venaient dans ta zone de terrain. Tu avais de temps en temps Zlatan qui pouvait décrocher et venir dans ta moitié de terrain. Mais globalement, chacun était à son poste. Tout le monde était à son poste. Même moi, je me rappelle, on dit souvent, ouais, c'est le jeu de Guardiola, le tiki-taka de Guardiola. Bah, Guardiola, déjà, il faut savoir que dans son jeu, tout est quadrillé. Tu restes à ta zone. Tu vas très rarement dans la zone de quelqu'un. Et quand tu vas dans la zone de quelqu'un, une fois, deux fois, tu peux te faire sortir comme Thierry Henry le disait. Et à l'époque, Laurent Blanc, c'était ça. Aujourd'hui, bah, tu as tout le monde qui vient dans ta zone. Moi, je pense aussi que l'envie des joueurs, des fois, aussi, c'est une forme de résignation. Ils se disent, bah, écoute, moi, à chaque fois, on bride mon jeu. Donc sur le terrain, bah, forcément, dès que je vais avoir le ballon, il y a Neymar qui va le demander, il va venir sur ma zone pour récupérer le ballon. Limite, des fois, j'ai l'impression que Neymar et Messi viennent récupérer le ballon dans les pieds des joueurs. Tu vois, des fois, ils viennent clairement, hey, vas-y, donne le ballon, c'est bon. Tu vois, et même des fois, les joueurs, même dès qu'ils ont le ballon, et ça, c'est une réalité, hein, ça, c'est même pas une vanne. Je le dis sur ton humour, mais tu prends le cas du dernier match PSG-Rennes. À un moment, Non, c'était le match juste avant PSG-Angers. À un moment, tu sais, lorsqu'il rentre Warren, au bout d'un moment, Warren tente quelque chose, les balles au pied, et Vitinha le regarde en mode, mais donne le ballon à Neymar. Mais si, c'est eux qui vont faire. Parce qu'à un moment, je pense que les mecs aussi se disent, bah, ils sont un peu résignés. Et juste, je voulais juste revenir sur la notion de. Il faut savoir aussi que je pense que le mercato, il était axé sur le 3-5-2. Donc forcément, les profils qui ont été cherchés, c'était pour ce système-là. Et donc forcément, en cours de saison, on a changé. Bon là, on est revenu au 3-5-2, hein, mais en cours de saison, on avait changé de tactique. Et donc forcément, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, Vitinha devait penser son football différemment que ce qui lui a été vendu au Paris Saint-Germain et avec laquelle la préparation physique il avait été faite. Il y a un autre profil qui manque beaucoup au Paris Saint-Germain et qui est blessé, c'est celui de Renato. Je pense que Renato, son profil, il aurait fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Cette capacité à certains moments de prendre le ballon et de pouvoir le remonter. Malheureusement, il est souvent blessé. Et moi, ce qui me dérange, c'est que je prends le cas de Fabien Ruiz. Je l'avais dit durant la vidéo, Fabien Ruiz aussi, il est capable de le faire. Alors, pas avec la même puissance, pas avec la même explosivité, mais il est capable de prendre le ballon et de remonter le ballon, sur 10, 15 mètres. Voire 20 mètres, il est capable de le faire. Vitinha aussi, à Porto, il le faisait. Pourquoi ils ne le font pas à Paris? Parce que dès que tu vas commencer à faire ça, tu vas te manger un taquet. On le voit lorsque Vitinha, par exemple, moi je prends le cas des passes latérales. Alors tout le monde parle des passes latérales de Vitinha. Bah, des fois aussi, les mecs, les passes latérales, c'est bien facile de tirer sur Vitinha par rapport à ça. Mais devant, c'est bouché. Les équipes en face, elles ont bien compris tes manques. Tu n'as pas de numéro 9. Donc forcément, on va bouchonner l'axe. En plus, tes principales qualités, c'est Neymar et Messi qui, eux, sont dans l'axe et ont joué très axial. Donc si on bouchonne l'axe, ils vont avoir du mal à les trouver. Je l'ai dit tout à l'heure, dès que Neymar et Messi prennent le ballon, on leur met un taquet dans les jambes. Donc forcément, l'axe est bouché. Donc pour trouver des solutions, tu es obligé de passer sur les côtés. Sur les côtés, Nuno Mendes n'est pas là actuellement, Hakimi n'était pas là. Donc déjà, tu n'as personne qui va dynamiter le jeu, pouvoir le remonter le ballon. Et même si tu passes sur les côtés, tu vas envoyer le ballon à qui dans la surface? Il y a qui? Ah, les gars, ceci, il faut en parler. Donc c'est bien facile de toujours parler de passes latérales, etc. Mais il faut voir un peu tous les aspects aussi. Mais ça, c'était juste pour expliquer. Mais sur la mentalité des joueurs, bah, à un moment aussi, il faut que les joueurs ils apprennent à se faire mal aussi. Tu vois, il faut que les joueurs ils apprennent à se faire mal. On va pas toujours trouver des coupables. On va pas toujours dire que ouais, parce que Messi vient dans ta zone, parce que Neymar vient dans ta zone. Non, à un moment, il vient dans ta zone, ok, bah pense ton football différemment. Ne tombe pas dans la facilité. Je suis désolé, mais Neymar et Messi, ils ont déjà joué ensemble à Barcelone. Avec Suarez aussi. Bon, c'est un numéro 9. Il élargissait les blocs. Et en plus, eux, ils avaient encore les jambes. Mais ils jouaient là-bas aussi. Les mecs, ils ont repensé leur football. Iniesta qui était là, alors c'est l'un des top que je prends en compte, mais il a repensé son football. À des moments, Iniesta, il portait un peu ses trucs et remontait le ballon. Pourquoi ils ne le font pas à Paris? Pourquoi Vitinha ne le fait pas alors qu'il sait le faire? Il faut faire aussi, les gars. À un moment, c'est pas toujours Neymar et Messi qui vont tout faire aussi. Parce que c'est bien facile de toujours trouver les stars comme coupables. C'est pas toujours de, c'est pas toujours, c'est très facile de. Oui, mais c'était un vrai ailier, mais il décrochait pas mal dans le cœur du jeu. Je vous rappelle que Neymar et Messi à Barcelone, ils revenaient souvent dans le cœur du jeu aussi. Et donc forcément, et même, je vous rappelle sur la dernière saison de la MSN, bah, il y avait ce trio-là qui était exactement pratiquement la même structure d'équipe que Paris Saint-Germain. Bref. Et les mecs autour, ils ont repensé leur football. Donc les Vitinha, tout ça, il faut repenser le football. Il faut commencer à trouver d'autres solutions. C'est trop facile de toujours trouver, ouais, mais il manque ci, il manque ça, il manque ça. Oui, il manque ça, il manque ça, mais pense ton football différemment. Fais les choses. Arrêtez de toujours dire c'est le coach, etc. Et ça me dérange toujours, cette mentalité-là. Et je crois que j'ai fini ce que je voulais dire, je suis un fou. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié.
Bah ok les gars, après 50 minutes de débat, le verdict est tombé. Campos prend du sursis, Galtier prend du sursis. J'ai bien entendu vos arguments sur Nasser. Je pense qu'on a établi que la stratégie elle est nécessaire au développement du PSG. Donc en soi, qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu colles une interdiction d'exercer sur un sportif, c'est tout ce que je peux dire.
Ouais, parce que
Et
sur le
du coup, avec
sportif,
tout ça, je dis que les coupables, c'est les joueurs. C'est eux qui prennent la plus grosse peine dans l'histoire.
après, président Nasser, on a oublié de dire un truc aussi. Il faudrait qu'il soit plus présent aussi. Il faudrait qu'il mette plus de taquet. Je suis désolé,
Ah ouais,
mais
exactement.
ce qui se passe au Paris Saint-Germain, j'aime bien prendre l'exemple des autres clubs parce que forcément, tu veux être dans leur cour, il faut voir ce qu'ils font, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça que ça marche. Il y a une veille qui est faite dans toutes les entreprises. Tu fais une veille de ce qui se passe ailleurs. Eh, va faire ça à Madrid. Je vous rappelle Gareth Bale. Alors Gareth Bale, c'était la même situation. Il avait un gros salaire, il ne voulait pas partir. Eh, Florentino Pérez, il ne s'est pas pris la tête très longtemps. T'es un bon joueur. Tu veux te moquer de nous? Eh, vas-y, va sur le banc. Vas-y, va. Va manger ton pain noir et arrête de nous prendre la tête. Eh, dans les autres clubs, c'est comme ça que ça se passe. Ils n'ont pas le temps de faire dans le social. Ils font dans le social une fois, deux fois. Regardez CR7. Il a voulu mettre la pression pour son salaire. À un moment, Florentino Pérez a dit une fois, ok. Deux fois, ok. Tes caprices, trois fois. Allez, tout CR7 que t'es, tu pars. Il va falloir aussi que Nasser aussi commence à durcir. Il nous dit dans les médias qu'il durcit son. Que le président Nasser, pardon, j'aime pas l'appeler Nasser. Que le président Nasser, il durcit à chaque fois comment dire, à chaque fois, chaque année, il nous dit, ouais, ça va changer. Oui, si. Bah, à un moment, frérot, je suis désolé, mais montre-nous que ça a durci. Montre-nous. Tu ne peux pas nous dire que tu vas chercher un entraîneur qui a de la poigne et derrière, ça reste cool et que les joueurs, dès qu'ils ont un problème, ils ont toujours ta ligne directe. Ça, c'est pas possible. Alors je veux bien une fois, ils ont ta ligne directe, deux fois, trois fois, pour régler des fois des petits problèmes dans le vestiaire qui sont inhérents. Des fois, c'est très rare. C'est des cas qui sont minimes. À un moment, président Nasser, pardon, va falloir commencer à resserrer les vis avec les joueurs aussi et faire comprendre que hey, ici, c'est pas le Club Med. Hein.
Ok les gars, bah écoutez, après 52 minutes, si jamais on veut réussir à boucler cette émission au jour, on va aborder sur le sujet suivant, qui est le Parc des Princes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans la semaine, la mairie de Paris a clairement dit que le Parc des Princes n'était pas à vendre. Donc il n'y a aucune possibilité d'acheter le Parc des Princes. Ils ont également dit que, entre guillemets, ils seraient ouverts à ce qu'on soit locataire. Et que avec nos propres finances, bien évidemment, parce que c'est pas à nous, hein, c'est pas notre stade, mais ils sont ouverts à l'idée qu'on investisse et qu'on développe le stade et qu'on agrandisse. Donc moi, ma question, elle est simple, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont attachés au Parc des Princes. Là, vous êtes locataire dans un appartement ou dans une maison. Le propriétaire, il vous dit, je veux pas vendre, mais frérot, si tu veux, t'agrandis, tu passes un truc de 50 mètres carrés à 120 mètres carrés, tu fais ce que tu veux.
T'as terminé mon
Je
argument.
soutiens tes efforts, je soutiens ce que tu fais. Et tu as ma bénédiction. Par contre, ça reste à moi. Ma
Non
question est simple, vous faites quoi, les gars?
mais. T'as
Mais
terminé mon argument, ça me tue,
c'est
ça me
du foutage
tabasse.
de gueule, très clairement, c'est du foutage de gueule. Là, ils ont investi, je crois, 70 millions pour les rénovations, tout ça. Ils ont leur stade bien propre, bien neuf pour les JO 2024. À un moment donné, ça doit s'arrêter, surtout quand on voit la différence, par exemple, de droits TV, de Ligue 1 et de PL. Bah, à un moment donné, nous, si on veut gagner aussi notre pain, on doit avoir les recettes du stade. Là, on gagne rien. Enfin, c'est pas possible. Et en plus, il faudrait qu'on continue à payer, etc. Enfin, on est vraiment une vache à lait et eux, ils se foutent de notre gueule. Donc, à un moment donné, quand tu as le choix de faire des travaux, après, c'est ton stade historique, c'est vrai, il est là le problème. Mais quand tu as le choix de faire des travaux pour des gens qui ne te respectent pas, pour rester dans ton stade, un stade dans lequel tu n'auras aucune recette, ou alors tu vas dans une plus grande maison que tu construis toi-même parce que tu as les finances pour et avec lesquelles tu vas pouvoir accroître tes bénéfices et enfin avoir la seule possession de ton stade. Mais il n'y a pas photo. Et ce n'est pas renier l'histoire du club. On l'a vu, il y a des clubs historiques qui l'ont fait. Highbury, c'est un stade historique, mais ils l'ont fait. Voilà, l'Atletico, il y a d'autres clubs. Il y a San Siro qui vont le faire bientôt, les 2000 ans. Donc, il y a un moment donné, c'est normal. Et d'ailleurs, la volonté des Qataris, de base, c'est de rester au Parc des Princes, d'en être le propriétaire et de rénover. Mais la mairie ne veut pas, à un moment donné. T'es supporter du PSG, tu dis oui, mais c'est mon club, c'est mon stade, c'est pas quoi. Mais respecte les gens autour de toi. Déjà, respecte les Qataris, c'est pas ta vache à lait. Respecte les gens qui veulent aller au stade, qui doivent payer 400 euros pour avoir une pauvre place tout en haut. À un moment donné, il y a d'autres gens. Le stade, le club ne t'appartient pas. Donc, il faut respecter ces gens-là aussi. Oui, c'est un stade mythique. Oui, c'est notre stade mythique. Il fera toujours partie de notre histoire. Mais à un moment donné, il faut partir si on veut pouvoir gagner un peu plus d'argent, si on veut pouvoir tous aller au Parc des Princes. Aujourd'hui, tu veux un abonnement, c'est impossible. Tu dois payer pour être sur liste d'attente. Enfin, c'est incroyable. Donc, pour moi, à un moment donné, il faut partir. La mairie ne veut pas, il faut partir. C'est tout.
Anne. Annie Dingo, comme on l'appelle, les télésactifs. Alors là, je suis obligé de vanner parce que cette histoire, elle est complètement folle. Alors attendez, je vous résume la situation parce que je pense que vous ne vous rendez pas compte de la bêtise qu'est en train de nous pondre la mairie de Paris. Alors attention, je ne suis pas un économiste, hein. Je ne suis pas l'un des meilleurs dans ce qui est l'immobilier ou autre. Mais attendez, en gros, ce que la mairie de Paris est en train de proposer au Paris Saint-Germain, tu n'es pas propriétaire. On ne veut pas te vendre le bien. Tu es locataire ? Fais les travaux. Paye les travaux de ta poche. Vas-y, paye les travaux de ta poche. Mais le patrimoine reste à la ville de Paris. Mais t'as vu ça ? Alors, les gars, parce que je sais qu'il y a des réfractaires à l'idée de quitter Parc des Princes. Et moi, je suis le premier, je n'ai pas envie de quitter Parc des Princes, mais je suis réaliste. Je suis réaliste. Là, c'est se moquer de la face du Qatar. Et même pas du Qatar, du Paris Saint-Germain, parce que j'en ai marre de dire « Ouais, on ne va pas vendre le stade au Qatar ». Non, déjà, c'est QSI qui a investi dans le Paris Saint-Germain, et c'est le Paris Saint-Germain qui rachètera le club. Hein. Faut arrêter de faire des raccourcis. Je pense que Annie Dingo, tu connais quand même le monde de l'entreprise, arrête de faire des raccourcis pour essayer d'avoir l'opinion publique dans ta poche. Ça n'arrivera pas. Mettez-vous à la place du Paris Saint-Germain. Je vais rénover un bien qui n'est pas à moi. Donc là, c'est comme si là, demain, mon bailleur, mon patron, mon propriétaire me dit, il y a un problème, il y a un mur qui est cassé. Ah ouais, bah vas-y, bah tu répares le mur à tes frais. Mais c'est ton mur. C'est pas moi qui l'ai cassé le mur. Pourquoi moi je dois le réparer? Mais c'est un truc de fou, mais c'est une folie. Et en plus, là, j'ai vu encore l'info de tout à l'heure, c'est que en l'état actuel, si le Paris Saint-Germain garde le Paris, la mairie de Paris vend le stade au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain peut augmenter la capacité du stade de 55 000 places, donc je crois 7 000 places en plus. Sauf que le problème, c'est que pour que le Paris Saint-Germain se retrouve économiquement, ils sont obligés de faire des loges VIP avec ça, parce que les loges VIP, ça représente 10% du stade, mais ça représente 50% de ton chiffre d'affaires, de ta billetterie. Donc en gros, loi Pareto, pour ceux qui ont... Bon, c'est pas vraiment des bacs 80, mais bon, vous avez compris à peu près pour ceux qui ont pris des cours en BTS. Ok, très bien. C'est-à-dire, en gros, on garde le stade, mais malheureusement, on est obligé de faire des loges pour se retrouver économiquement. Donc les supporters, ça change rien pour eux. Hein. Et le stade, bof. Mais je suis pas propriétaire de mon stade. Pourquoi je vais agrandir le... Mais c'est vraiment une folie. Là, en fait, là, je vous dis ce qu'est en train de faire la mairie de Paris. C'est prendre notre amour pour le Parc des Princes, retourner l'opinion publique grâce à cet amour et prendre le PSG, parce que pour eux, c'est le PSG égale le Qatar, pour des vaches à lait. À un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Le Parc des Princes est un stade mythique, non pas que du Paris Saint-Germain. Alors, le Paris Saint-Germain l'a rendu encore plus mythique, étant donné que c'est son stade. C'est un stade mythique de France. C'est inscrit au patrimoine français. Je peux comprendre la position de la mairie de Paris de dire on n'a pas envie de vendre un stade qui fait partie du patrimoine français. Ça serait comme vendre, je sais pas moi, la Tour Eiffel ou le Louvre ou autre à une entreprise privée. Ok, très bien, je peux comprendre. Mais arrêtons de prendre les gens pour des jambons. Arrêtons de prendre les gens pour des jambons. Annie Dingo, arrête tes bêtises. À moi, il va falloir arrêter. Soit tu dis que c'est bon, on ne le vend pas, soit tu arrêtes tes farces. Tu vois, moi, je vous explique juste, après je m'arrête là parce que j'ai fait un tweet tout à l'heure dessus. En gros, c'est simple. Hein. Là, à l'état actuel des choses, il y a deux solutions. Soit le Paris Saint-Germain agrandit le stade, étant donné que la mairie ne veut pas le vendre. Ça voudrait dire que donc le Paris Saint-Germain priorise les loges VIP pour que le club augmente leurs recettes. Malheureusement, ils sont bridés par la faisabilité d'agrandissement. C'est-à-dire que 55 000 places, grand maximum. Donc les supporters ne seront même pas. Je crois qu'il y aura quelques places qui pourraient être données aux supporters, mais globalement, ça serait plutôt pour augmenter les loges. Il y en a certains qui diront, ouais, mais regardez, ils pensent qu'aux loges VIP, à un moment, il faut que le club il se retrouve financièrement aussi, les gars, dans l'agrandissement du stade. C'est normal, c'est logique. On a un train de vie, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour ça, c'est l'argument que je vous avais dit que j'allais balancer tout à l'heure. On a un train de vie qui fait que on est dépendant du marketing et de la billetterie. La billetterie ne remplit. Je crois que c'est 131 millions. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, sa billetterie, normalement, devrait être aux alentours de ce que gagne le Real Madrid. Les autres clubs, Chelsea ou autres, etc. Donc c'est soit ça. Soit la deuxième option, c'est nouveau stade. Nouveau stade, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de loges, plus de places supporters, et en plus, tu es propriétaire de ton stade, donc tu as la possibilité de réguler ticket de place, parce qu'actuellement, tu es dépendant de ticket de place, donc tu ne peux pas le réguler malheureusement. Tu es dépendant de cette recette, de cet argent qui rentre aussi. Ça aussi, on tire beaucoup sur le club, mais je vous rappelle que ceux qui vendent les places en ticket de place, c'est nous les gars. C'est les abonnés. C'est ceux qui prennent les quelques places que Paris Saint-Germain vend à prix réduit, je crois, à 49 euros, qui les prennent pour les vendre à 199, 200 balles, etc. Vous savez, les places qui partent en 5 minutes, là. Ces places-là,
C'est peut-être pour
là.
ça qu'ils ne veulent pas partir du parc. Parce
Voilà.
qu'ils sont
Donc,
déçus.
le Paris Saint-Germain est aussi dépendant de tickets de place. Donc, tirer son ticket de place par rapport au Paris Saint-Germain, c'est très hypocrite. Surtout quand je vois que vous voulez des mercatos plus ambitieux, bah, les mecs, à un moment, il faut que l'argent rentre. Forcément, tu ne peux plus injecter de l'argent comme tu le faisais à l'époque. Et en plus, à chaque fois que tu injectes de l'argent, tu te fais sucrer par l'UEFA. Donc à un moment, les gars, la question du nouveau stade, malheureusement, elle peut se poser. Et c'est triste à dire parce qu'on est très attaché au Parc des Princes. Moi, je le dis, j'ai vraiment une attache. Je suis allé au Parc des Princes, là, il n'y a même pas 2 semaines, c'est pour la visite du parc. Les gars, à chaque fois que je vais au Parc des Princes, c'est un moment inoubliable. Et alors, visiter le Parc des Princes, je ne l'avais jamais fait. Franchement, j'avais des étoiles plein les yeux. Je me suis revu, moi, gamin, revenir dans ce stade et me dire, waouh, quel stade incroyable, quel stade mythique, à le charger d'histoire. Mais à un moment, il faut comprendre aussi que la mairie de Paris prend le club pour des vaches à lait, que le club doit se retrouver financièrement, que les supporters en ont marre de payer des places à je ne sais pas combien, à des prix fous. 199 euros pour aller voir la Juventus Paris Saint-Germain. 199 euros, la première place, la moins chère. C'est une folie complète. Il faut arrêter ça. Maintenant, il faut casser ce système-là. Et malheureusement, si la mairie continue de mettre des bâtons dans les roues, et puis même dans tous les cas, l'agrandissement du stade, 55 000 places, on s'est retrouvé, mais très peu, et on ne va même pas se retrouver financièrement au final. On va même pas. Peut-être que le club va réguler un peu plus parce que les loges vont rapporter un peu plus. Donc forcément, ils vont pouvoir réguler ce système-là. Ils seront peut-être un peu moins dépendants de ticket de place, ils vont pouvoir réguler. Mais globalement, si on veut avoir les pleins pouvoirs, avoir la régulation de ticket de place, avoir l'argent qui rentre, étant donné que c'est en partie dépendant de tes loges. La plus grosse part de ta billetterie. Malheureusement, il va falloir penser à quitter le stade. Et moi, comme j'ai dit, j'ai envie de rester au Parc des Princes, mais je suis réaliste aussi. Le club a augmenté son train de vie, le club a upgradé ses ambitions. Malheureusement, aujourd'hui, le Parc des Princes a 48 000 places, c'est impossible. Le Parc des Princes a 55 000 places, bah, c'est peut-être possible, mais ce ne sera pas possible pour les supporters. Donc malheureusement, la dernière solution, c'est d'aller chercher un nouveau stade. Donc j'ai vu plusieurs pistes. On a entendu parler du Stade de France, on a entendu parler de Poissy, on a entendu parler de Joinville, on a entendu parler de l'Hippodrome de Saint-Cloud. Peu importe, mais s'il faut quitter le Parc des Princes, malheureusement, ça ne sera ça à faire. Juste pas Poissy, les mecs, c'est trop loin. Commencez pas. C'est trop loin, les gars. Arrêtez vos bêtises.
Bah, juste pour répondre à un commentaire que j'ai vu dans passer sous la vidéo, ouais, on n'a pas d'argent, mais c'est pour ça qu'entre guillemets le club voudrait vendre une partie, enfin une partie du club littéralement, pour pouvoir
15%
injecter des fonds pour pouvoir payer le stade du coup. On va passer.
Excuse-moi, Nix, mais tu sais ce qui me
Vas-y.
tue encore plus, c'est regardez l'hypocrisie de la mairie. Vous voulez conserver le stade? Pas de souci. Alors déjà, les travaux de rénovation, vous mettez un billet dedans. Parce que là, j'ai vu une info encore qui disait que Anne Hidalgo comptait sur la vente du Paris Saint-Germain pour éponger les dettes qu'il y a dans la ville de Paris. Ma cocotte, c'est toi qui nous as fait des pistes cyclables à droite à gauche là. C'est toi, hein. C'est pas ma tante, hein. C'est toi. Donc voilà, toutes les bêtises que tu as pu faire à la mairie de Paris. Bref, pourquoi la mairie de Paris ne propose pas soit de prendre une partie de l'agrandissement du stade une partie de l'agrandissement du stade en charge, ou alors bah, tu vends une part minoritaire au club. Tu vends 49% du Parc des Princes, bah, tu gardes 51%. Enfin, non, je ne crois même pas que je suis à fond, parce que là, je parle comme si c'était une action. Le Parc des Princes n'est pas une action, mais tu vends une partie du Parc des Princes et des recettes au Paris Saint-Germain, pour que le Paris Saint-Germain s'est retrouvé économiquement, et toi, tu gardes la partie majoritaire. Pourquoi tu ne le fais pas? Faut arrêter de prendre un peu les gens pour des jambons. Faut arrêter un peu. Là, tout ce qu'on nous fait, là, c'est qu'on prend notre amour en lice pour pouvoir on mettre la pression sur le club. Et en plus, ça m'énerve que je vois le Romain Nabil qui prend là, cette défense-là de la mairie de Paris. Ça m'énerve un peu alors que vous savez très bien, j'ai un énorme amour pour le Cup. Mais là, je trouve quand même qu'il abuse un peu. Je connais l'histoire, ok, on aime bien l'histoire, mais il ne faut pas abuser. Mais bon, bref, pourquoi elle ne propose pas ça? Non, en fait, elle prend le Paris Saint-Germain pour des vaches à lait, parce qu'elle se dit, il y a le Qatar derrière, ils vont injecter. À un moment, ce système-là, il faut arrêter. Et dernière chose, si le Qatar t'en veut, Annie Dingo, ma grande, c'est peut-être parce que tu as boycotté leur Coupe du Monde. Et ça, je les comprends aussi.
Ok, on va clôturer ce live avec le dernier sujet. Ce serait un focus mercato pour savoir s'il faut recruter cet hiver ou s'il faut attendre cet été. Parce que dans la saison, de la façon dont elle est partie, ça se passe. On va pas dire que ça se passe mal, parce que genre on est fixé sur ce qui s'est passé dernièrement. Les deux défaites. Même si, entre guillemets, sur Paris Central, même avant les deux défaites, ça fait des mois qu'on dit que c'est un néant. Et limite, cette défaite, moi, j'étais content qu'elle arrive, et celle d'avant aussi, dans le sens où je me dis qu'au Paris Saint-Germain, la seule façon d'avancer, c'est par la défaite. Pas parce que dès que tu gagnes, alors on te dit, ouais, ben on est premier, nanani, nanana, il n'y a rien à faire, on est premier, le résultat, ils sont bien, donc t'inquiète pas, en mars, ça va aller. Et à chaque fois, on se prend des fessées en mars. Donc moi, je suis content de cette défaite, mais est-ce qu'il faut abandonner pour cet hiver et dire que la saison... On la finira comme on l'a commencé. Ou est-ce que faut essayer de recruter cet hiver? Et si vous voulez le faire, comment vous équilibrez l'équipe et quelle recrue vous allez chercher? Vas-y, Rekoba.
Bah, le problème, c'est que là, on a très peu de marge de manœuvre. Il y a un chantier et clairement, il manque un joueur à chaque ligne, quoi. Il te manque un défenseur central, il te manque un gros milieu de terrain, et il te manque un numéro 9. Donc, on va pas se mentir, pour cet hiver, c'est mort. Rien que déjà les profils qu'il y a sur le marché. Voilà, aller chercher un joueur de seconde zone, histoire d'eux, c'est inutile. Autant garder tes sous, surtout que tu n'en as pas. Donc là, le problème, c'est que financièrement, avec les joueurs dispo, ça va être compliqué de se retourner. Le seul pour moi que je vois jouable, c'est Skriniar. Donc là, on va attendre le 20 janvier parce que l'Inter doit donner sa réponse. En gros, si Skriniar ne prolonge pas là dans les prochains jours, l'Inter considérera qu'ils peuvent le vendre et ils attendent 20 à 30 millions. Donc pour moi, c'est là où il faut faire un effort financier. Tu as eu de l'argent avec Sarabia, tu mets un peu d'argent, tu prends Skriniar, tu sécurises derrière et au moins, avec lui, tu peux jouer dans les deux systèmes. Et si tu joues à 3 derrière, tu as quand même un Skriniar, c'est quand même beaucoup mieux.
Il était à 70 millions cet été.
Ouais, il voulait
Quel idiot.
70 millions cet
Il
été, ouais.
voulait 70 millions. Quelle bande d'idiots.
Je te jure. Et après, au milieu de terrain, c'est compliqué parce qu'un Amrabat, ça te coûtera quand même 25-30 millions. En fait, ça dépend la priorité que tu as, mais déjà, tu ne peux pas faire le DC et le milieu de terrain. Tu ne peux pas lâcher 50-60 millions cet hiver, vu les finances. Donc, il faut faire un choix. Mais pour moi, les numéros 9, il n'y en a pas de dispo. Le seul qu'il y avait, c'était Depay, mais il est parti à l'Atlético, si je ne me trompe pas. Donc, pour moi, c'est cet hiver, tu peux améliorer ta défense ou ton milieu de terrain. C'est à toi de voir. Mais tu devras attendre cet été, clairement, pour envoyer du lourd. Pour des départs peut-être, que ce soit peut-être pas prolonger Messi ou peut-être pas prolonger Ramos, peut-être le départ de Neymar, parce que Campos, c'est ce qu'il voulait en arrivant. De base, hein, il faut le dire, hein, il voulait faire partir. Pour moi, si, hein, il voulait faire partir
Non,
Neymar et il
je parle à
voulait mettre
Tonton.
Lewandowski. Ah, ok.
Je parle à Tonton, il est fou, quoi.
Il a dit quoi, vous pensez quoi de Moussa? Non, mais Moussa Dembélé, les gars. Bref. Non, les gars, on est au PSG quand même. Maintenant, ouais, il voulait faire partir Neymar et mettre Lewandowski. Ça n'a pas pu se faire, mais il avait la volonté de vendre Neymar. Donc cet été, tu te retrouveras sûrement avec une masse salariale beaucoup plus faible, avec peut-être des départs éventuels. Et là, tu pourras vraiment investir sur l'équipe que tu comptes bâtir. C'est pour ça qu'on le disait tout à l'heure, on attend Campos vraiment aussi cet été. Mais pour cet hiver, soyons réalistes, vu les finances et vu les joueurs disponibles, tu peux pas faire des Guardiol, des Vlahovic, etc. Le mieux qu'on puisse faire, je pense, c'est améliorer un poste. À choisir entre le milieu et la défense, et pour moi, ce serait du coup Amrabat au milieu ou Skriniar en défense centrale.
Juste pour répondre aux commentaires, les gars, je vois des blagues depuis tout à l'heure, Guardiol, etc., etc. Les gars, on parle avec les finances du club. Arrêtons un peu les rêves. Là, j'ai vu l'info qu'il y a eu tout à l'heure, c'était 15 à 25 millions pour ce mercato-là, en sachant que bah, ils veulent remplacer le départ de Sarabia, mais ils veulent le remplacer par un attaquant pivot. Pour moi, oui, Skriniar intéressant, mais là, actuellement, au vu de l'enveloppe, parce qu'ils priorisent soit l'achat, mais avec 15-25 millions, ou soit le prêt avec option d'achat. Prêt avec option d'achat, prêt avec option d'achat, donc ça permettrait d'avoir un plus gros joueur, mais les gros joueurs, bah, ils sont dans les grosses équipes actuellement, ou même pas forcément gros joueurs, mais en général, à la mi-saison, c'est compliqué d'aller chercher un tel, des très bons joueurs. Donc ça va être compliqué pour cet hiver. Cet hiver, pour moi, la priorité pour moi, c'est pas le défenseur central actuellement, si tu veux vraiment aller loin en Ligue des Champions. La défense centrale, globalement, tu as quand même ce qu'il faut. Alors, c'est pas la meilleure défense centrale qui est possible. Hein. Si tu me dis que tu peux avoir Gardel cet hiver, oui, je te dirais oui tous les jours. Mais malheureusement, je pense qu'au vu de l'enveloppe et de ce qui se dit dans les médias, faudrait peut-être plus aller maximiser sur certains profils. Pour moi, la priorité actuellement, c'est un milieu. Un milieu, parce que le profil que j'ai dit tout à l'heure qui devait te faire du bien cette année, mais que tu n'arrives pas à voir, c'était Renato Sanchez. Donc, peut-être aller chercher ce profil-là. Si tu peux avoir un prêt avec option d'achat de Manu Koné, j'ai vu l'info il n'y a pas longtemps de Manu Koné, mais j'ai surkiffé. Là, je vois Steller qui dit Giroud, mais pourquoi Giroud il quitterait le Milan AC ou les champions d'Italie ou les titulaires pour venir au Paris Saint-Germain, il serait sur le banc. Ça n'a aucun sens, les mecs. Même si tu blindes le gars et ça n'a sportivement, ça n'a aucun sens. Donc oui, il y a Zapata. Zapata qui pourrait être intéressant aussi. Zapata qui sera en fin de contrat là cet hiver. Il y a Marcus Thuram aussi qui sera en fin de contrat. Mais j'ai cru entendre, il me semble, sur les réseaux que Marcus Thuram ne voulait peut-être pas forcément venir parce qu'il y avait bloqué par la concurrence de Neymar et Messi. Il se dit, bah, je vais venir pourquoi? Pour être sur le banc. Non. Donc non, faudra aller chercher. Moi, je pense qu'il faut plutôt aller chercher un milieu. Aller, si possible, tenter un prêt avec option d'achat ou vraiment aller chercher un défenseur central, pardon, un attaquant de pointe qui sera en fin de contrat et donc tu pourras payer très peu cher comme Marcus Thuram ou Zapata. Mais globalement, les 15-25 millions, il faut aller chercher un milieu. Je pense qu'il faut aller chercher un milieu, un profil particulier. Alors tu en as en Ligue 1, tu pourras aller chercher à bas prix, moyennant un prêt d'un de tes jeunes ou autre. Tu vois, ça peut se faire aussi. Tu vois, on vous prête ce joueur-là. Il a beaucoup de talent, il va vous faire beaucoup de bien. Vous nous vendez le joueur et puis on négocie un peu le salaire. Alors ça, c'est dans ma tête un peu, hein, mais ça, c'est peut-être pas ce qui va se passer, mais c'est ce que je pense. Mais Khéphren Thuram qui pourrait être intéressant. Mais maintenant, est-ce que Nice est apte à te vendre au prix auquel tu peux l'acheter, ce sera compliqué. Mais globalement, je pense qu'il faut aller chercher un milieu de terrain assez physique qui va pouvoir faire remonter les ballons et pouvoir ajouter de la variété à ton jeu, étant donné que Renato Sanchez est blessé. Après, si tu peux aller chercher un numéro 9, un pivot, pourquoi pas, je ne dis pas non. Mais pour moi, c'est pas le 9, ce ne serait pas forcément la priorité parce qu'il serait sur le banc, même si c'est une priorité, mais ce n'est pas forcément la priorité. Et au milieu de terrain, j'entends beaucoup de gens dire, ouais, mais il y a les jeunes, les jeunes, les jeunes. Les gars contre le Bayern, Warren, je l'aime beaucoup, il est très très bon. Je pense que ça va être un peu juste pour lui pour jouer contre le Bayern. Donc il va te falloir un joueur qui a peut-être pas forcément des références, mais un nom. On a Fofana, donc pourquoi pas tenter avec Lens, mais bon, je pense pas qu'il viendra cet hiver. En tout cas, j'ai pas d'idée en tête si ce n'est Manu Koné, mais je sais que Manu Koné va coûter beaucoup plus cher. Et en vrai, ça va être compliqué d'aller chercher.
Tout ça, c'est trop cher, hein. Tous les
C'est
Colomwani,
ça?
les Disasi, tout ça, c'est du 50-100 millions. Fofana, c'est pareil, on a raté le coche. Hein. Pour tous les joueurs qu'on a cités, là, on a raté le coche.
Dizazi,
Surtout
c'est marrant quand même.
Colomwani et tout.
Dizazi, je trouve ça marrant quand même. Parce que Dizazi, j'ai fait une vidéo avec un de nos amis de Monaco. Tu te rappelles, Dix? Tu te rappelles? J'ai fait une
Moi, je me
vidéo.
rappelle plus de son blaze.
Ouais, Alex. Alex. Non, non, c'est même pas ça, c'est Alex Litz. Ce qui me tue, c'est
Ouais,
que
c'est ça.
j'ai fait cette vidéo sur Dizazi. Dans les commentaires, les gens me disaient, mais t'as jamais vu Dizazi jouer? Mais Dizazi, c'est une fraude. On me disait par DM, en DM sur Twitter, ouais, mais Dizazi, c'est une fraude. Et là, maintenant, je le vois souvent revenir dans les commentaires. Donc, c'est quand même un peu marrant. Des fois, les gars, faut. Je suis pas en train de dire que j'ai un sens infuse, hein, loin de là, mais des fois, avant de juger un joueur, il faut regarder un peu ce qui se passe sur toute une saison et pas forcément uniquement juger sur ce qu'on entend de lui. Faut se faire un avis personnel. Je pense que Dizazi, ça serait une bonne idée pour cet hiver. Pourquoi pas? Maintenant, je pense pas que la défense centrale soit la priorité cet hiver. Merci Frédéric.
Les gars, c'est la rubrique où vite fait on va répondre à vos commentaires. Si vous avez des questions à poser, parce que j'en ai vu plein défiler pendant le live, j'ai pas eu le temps d'y répondre parce qu'on était sur des sujets. Donc là, vous avez un petit 2-3 minutes avant qu'on termine le live pour poser des questions si vous voulez qu'on aborde un sujet rapidement. En attendant, je tenais à vous dire que je sais que vous n'avez pas trop vu de vidéos dans cette semaine. C'est parce qu'on a décidé un peu d'arrêter les vidéos et de construire des formats un peu plus travaillés comme on a fait ce soir. D'ailleurs, j'espère que vous avez apprécié le format de ce soir, le live qu'on a fait ensemble. Donc, il y a des questions qui commencent à arriver. Van Marquinhos, oui, mais pour remplacer par qui?
Guardiola, un taulier quoi. Il te faudra un gros joueur à sa place, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Après,
Van
tu peux installer
Marquinhos.
Skriniar, hein. Tu peux mettre une défense, une charnière Kimpembe Skriniar, t'as Danilo. Voilà. Hein.
Merci, merci les gars, ça fait plaisir.
Est-ce qu'on va le
Nickel
vendre
le live, ça.
Retour Paredes, perso, non. Non, non.
Von Marquinhos, franchement, moi je suis réfractaire à cette idée-là. Ça reste un joueur qui a compté pour le club. Et puis même au-delà de ça, il subit une mauvaise passe depuis une saison. C'est une réalité. Depuis janvier de l'année dernière, où j'avais tiré la sonnette d'alarme, où je m'étais dit, bah, ça se voyait quand même que mentalement, c'était dur pour lui de toujours compenser les bêtises des autres. Maintenant, je pense que Marquinhos, il subit une mauvaise passe mentalement, mais ça reste un très bon défenseur. Et puis, dernière chose, moi, toujours tacler la charnière centrale, ça me dérange parce que je prends encore ce que je disais tout à l'heure sur l'envie des joueurs qui sont devant lui. Eh, faut arriver avant d'arriver à la charnière centrale, avant qu'un attaquant arrive à ta charnière centrale. Il y a quand même beaucoup de joueurs de champ qui doivent faire les pressings. C'est pas normal qu'on attaque placé quand toi tu es en bac bas, en deux passes. Benfica arrive à se retrouver devant Marquinhos. Et Marquinhos doit défendre en bloc bas, en deux contre un. Et ça
Ouais.
se répète tout le match. Tout le temps, Marquinhos et Kimpembe ou Ramos, quand ils sont là, ils doivent. Normalement, les séquences de jeu où tu défends en deux contre un, c'est souvent en contre-attaque. Et c'est très rare dans un match. Et pourtant, ça arrive à longueur de temps. Donc, il faudrait peut-être commencer à cibler peut-être ces choses-là. J'ai vu une petite idée qui est intéressante tout à l'heure sur le réseau. Pourquoi pas le remettre en 6? Ça pourrait être intéressant. Mais
Ah
je
mais
pense que
c'est vrai
Marquinhos peut
ils
vendre.
sont tout le temps livrés à eux-mêmes, hein.
Bah
Franchement, ils
oui,
sont tout le temps livrés à eux-mêmes.
tout le temps ils sont contrats d'exploit. Et à chaque fois, on voit les arrêts incroyables de Donnarumma. On voit aussi des fois des moments de fulgurance de Ramos, de Marquinhos. Bah, très rare de Ramos, hein, mais de Marquinhos, de Kimpembe, etc. Mais avant de voir ces moments de fulgurance, regardez un peu ce qui se passe avant que le ballon arrive devant eux. Et je me dis, waouh! Waouh! Les déplacements, l'occupation de l'espace, elle est complètement folle au Paris Saint-Germain.
Retour de Ibra dans l'organigramme pour mettre des baffes un peu dans.
Mais
Vous en
moi,
pensez quoi?
ça,
Faut pas
oui,
faire.
mais bien sûr. Moi, pour moi, tu vois, des
Faut
joueurs
pas
comme
faire.
ça qui ont compté, qui ont fait progresser le club, bien sûr. Les Ibra, les Maxwell, les Thiago Motta, évidemment. Thiago Motta fait de belles choses d'ailleurs avec les jeunes. Alors, je ne dis pas lui donner les clés de l'équipe première. Peut-être, on ne sait jamais dans le futur, mais pour moi, c'est des joueurs qui ont compté pour le club, qui ont développé le club, qui ont inculqué une super mentalité. Donc, dans l'organigramme, bien sûr, bien sûr.
Je sais que Zlatan, il a peut-être envie de devenir directeur sportif. Donc, Tamilus Campos, on va pas lui rajouter encore un ego dans les pattes. Ça va faire beaucoup
J'avoue.
d'ego différents, les gars. Je vous rappelle qu'on a eu deux sons de cloche. On a eu deux sons de cloche cet été. Et sur le terrain, on a deux sons de cloche aussi. Les gars, faut arrêter avec les sons de cloche. Hein. À un moment, ça y est, on n'est pas une église ici. Faut arrêter un peu. Non, mais
Rapatrier sa vie.
après, Ibra, pourquoi pas dans un poste comme Zidane, il avait au Real Madrid, c'est le directeur de je sais plus quoi, pour pouvoir avoir son analyse du terrain et pour pouvoir aussi aider les jeunes joueurs. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant.
Carrément, carrément.
Directeur de la discipline.
Non, mais Zidane, je sais plus, il était directeur de je sais plus quoi, ils avaient inventé un poste pour lui, mais c'était surtout pour le garder au sein du club. Et il accompagnait les jeunes joueurs. En plus, quand il a réussi ses diplômes d'entraîneur, il est devenu leur entraîneur. Il accompagnait les jeunes joueurs, il accompagnait aussi les joueurs aussi cadres de l'équipe. Et ça a très bien marché. Au final, lorsqu'il est devenu entraîneur, bah, ses joueurs l'ont bien rendu. Donc ça pourrait être intéressant.
Mehdi qui nous demande Navas ou Donnarumma,
Bah, Donnarumma, c'est fait,
Donnarumma,
c'est réglé.
ça
Hein.
y est, ça y est, ça y
On
est.
va
Ça a
pas revenir
été
dans le passé.
mal géré, ça a été très mal géré tout ça,
Non,
mais
ah
voilà,
non,
l'avenir
non,
c'est
pour moi, ça n'a pas
Donnarumma.
été mal géré. Mais bon, bref,
Ah,
on va
pour
pas
moi
revenir
si,
dessus,
parce qu'en
mais.
fait Donnarumma t'aurais dû le prêter. Tu peux pas, avec les saisons que fait
Non.
Navas et tout, tu peux
Non.
pas prendre Donnarumma parce que c'est
Non.
l'opportunité, parce qu'il est libre,
Non.
c'est une très bonne chose, mais tu dois le prêter, tu peux pas lui mettre dans les pattes comme ça avec le taf qu'il fait Navas, c'est pas possible.
Je peux comprendre la position. Maintenant, malheureusement, l'âge de Navas, il est tel qu'il est.
Oui,
Hein. Il a fait
bien
les
sûr.
frais à Madrid. Il y a beaucoup de joueurs. Bah, c'est comme ça. Hein. Les jeunes, en général, ils prennent toujours la place des plus anciens. Malheureusement, c'est comme ça dans le football. Pour moi, ça n'a pas été mal géré parce que lorsque Navas est prolongé, l'opportunité de Donnarumma n'est pas encore sur le marché. Donc forcément, lorsque l'opportunité de Donnarumma apparaît, tu es obligé d'aller chercher, c'est le gardien du futur. Maintenant, malheureusement, si Navas, s'il n'avait pas un gros salaire, il serait déjà parti. Hein. L'histoire aurait été réglée. Maintenant, c'est son gros salaire qui fait qu'il est encore dans le club. Donc pour moi, ça n'a pas été forcément mal géré. Je suis désolé pour Navas, mais c'est comme ça dans le football. Nené, à l'époque, il avait fait des frais. Thiago Silva, alors ça n'a pas été la bonne idée, mais il en a fait des frais. C'est comme ça dans le football. Il en a fait des frais à Madrid. Là, par exemple, Neuer, il se rapproche d'un certain âge. S'il y a un jeune gardien qui apparaît, je peux t'assurer que Neuer, il en fera les frais. Hein. Tout talentueux qu'il est.
Prolongation de Ramos, est-ce qu'on a un club de clowns?
Non, mais la prolongation de Ramos, ça peut être une bonne chose, mais il doit avoir un salaire qui diminue et il doit être baissé dans la hiérarchie. Parce que Ramos, ça peut être un joueur hyper important, on le voit, il s'adapte très bien Il est hyper positif. Mentalement, c'est un joueur qu'il nous faut. C'est, voilà, il est hyper. Il y a énormément de qualité. Donc, ce serait une bonne chose pour moi de le prolonger, mais uniquement si tu baisses considérablement son salaire et s'il descend dans la hiérarchie, qu'on lui met 3-4 défenseurs centraux d'envergure devant lui. Et du coup, il peut dépanner de temps en temps, jouer les coupes, ce que tu veux. Et il est là pour apporter son expérience, son leadership, etc. Ce serait une bonne chose de garder un joueur comme Sergio Ramos. Mais si tu comptes vraiment sur lui, pour le sportif, et que tu lui gardes un salaire mirobolant, non.
Ramos,
qui est
quelqu'un
même.
connaît le défenseur David de Crystal Palace?
Non.
De quoi, c'est quoi?
Crystal Palace, je t'avoue.
Défenseur de Crystal Palace qui s'appelle David.
Franchement, moi je vous dis la vérité, je ne retiens pas les noms. Alors j'ai regardé Crystal Palace très peu cette saison, donc j'irai revoir, mais de tête, je ne me rappelle pas. Juste ce Ramos qui a une loge au Parc des Princes, vu que j'ai vu sa loge, notamment quand j'ai fait la visite du stade, il a une loge à son nom. Maintenant, Ramos, son salaire, bah, alors moi comme je dis souvent, le salaire, ça ne me correspond pas, le club fait ce qu'il veut avec les salaires. Maintenant, la réalité, c'est que Ramos aussi, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne disent pas sur son salaire, c'est que Ramos, en termes de marketing, il rapporte aussi. On parle souvent du salaire de Messi, Neymar, Ramos, mais ces mecs-là, ils rapportent autant en marketing au club. Donc c'est normal qu'ils négocient des salaires un peu plus conséquents que d'autres joueurs. Ramos, il vient avec un nom aussi. C'est pas n'importe qui. Maintenant, prolonger Ramos, oui et non. Si c'est pour prolonger Ramos sportivement, ça n'a aucun sens. Si pour prolonger Ramos en étant sur le banc et en étant celui qui accompagne cette jeune génération, qui apporte ses analyses technico-tactiques et un peu son aura aussi, son leadership. C'est pas forcément délirant, c'est voilà, Ramos, malheureusement, il a un nom qui fait que et il a une sorte d'aura autour de lui qui va faire que qu'on le respecte. Ramos, vous le voyez par exemple cette saison, il n'est pas forcément très très bon Paris Saint-Germain, mais quand il est sur le terrain, on sait que Ramos est là. On sent le poids du joueur. Je me rappelle de son premier match avec le Paris Saint-Germain contre Saint-Étienne, le mec ne fait même pas forcément un grand match, mais rien que le fait que Ramos est sur le terrain, tu vois son aura. Donc Ramos, c'est compliqué sa prolongation.
Et
Juste,
je vois.
moi je veux pas qu'il soit là au détriment de joueurs que tu peux ramener en défense
Voilà,
centrale ou au
exactement.
détriment des jeunes. Si c'est sportivement, ça n'a aucun sens.
Exactement.
Mehdi, tu dis des trucs exprès pour créer des conflits. Je te vois. Je te vois, Mehdi.
Bah oui, il y a plein de joueurs qui sont dans des équipes comme ça pour accompagner le groupe. Hein. Parce qu'ils ont un leadership. Mandanda, l'équipe de France. Non, mais les gars, Mandanda, ça fait des années que même Areola est meilleur que lui. Hein. Même Areola est meilleur que lui, même Lafond actuellement est meilleur que lui. Mais s'il était là en équipe de France, c'est pas pour rien. Et on l'a vu encore là, les vidéos qui ressortaient, c'est un leader. C'est un leader, les mecs. Il prend la parole dans le vestiaire et les mecs, ils l'écoutent alors que le mec ne joue pas. Ramos, c'est un peu la même chose. Zlatan à Milan. Eh oui, les gars, c'est pas forcément sportivement que les prolongations se font. C'est aussi comment le joueur va parler
Les
au groupe,
apportements.
comment va être garant le joueur va être garant du club et aussi comment il va pouvoir donner des directives à certains joueurs. Et Ramos, dans ce truc-là, il le fait très bien.
Ah oui, le Bayern a trouvé son gardien, Sommer
Normalement,
le Suisse.
Yann Sommer. Yann Sommer.
Normalement, il faut, je crois qu'ils veulent ils veulent Omlin de Montpellier. Si ils arrivent à avoir Omlin, ils lâcheraient Sommer au Bayern. Et d'ailleurs, ils ont dit ça d'une manière genre, on fait le nécessaire pour avoir ce gardien-là. Si on l'a, on vous le file. Genre. En France, t'as pas ça, quoi. En France, ils auraient dit Sommer, on vous le lâche à 80, tu vois. C'est ça qui m'énerve,
Ouais,
c'est
c'est
qu'en
des schmettas.
Bundesliga, le Bayern, c'est tellement simple pour eux de prendre les joueurs à droite, à gauche dans leur championnat, alors que nous, c'est tellement une galère. Tu vas vouloir Unai à Angers, vas-y, lâche 60 millions, on ne vous fera pas de cadeau, et tu vas le voir partir à 40 dans un autre club. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, ça, c'est vraiment relou.
Mais après aussi, c'est la faute du club aussi. Quand tu as commencé à mettre des gros paquets sur les joueurs, bah derrière, les gars veulent tous manger. Hein. C'est
C'est
pas
sûr.
forcément illogique.
Trop cher, Haider, on n'a pas d'argent. Les gars, je vous le répète, le PSG n'a
Ah, c'est
pas
officiel pour Sommer.
d'argent.
C'est officiel apparemment pour Sommer. Bah voilà, ça sera le
Un
gardien qui
super
va s'occuper de
gardien,
Paris. Très bon
ça va être
gardien.
compliqué, hein. C'est un super gardien.
Mais je pense que Kylian Mbappé va trouver la faille. En plus, il a un peu une petite
Il a une
rage contre la
revanche à prendre, hein.
Suisse. Il a une revanche à prendre. Il va lui apprendre la vie. J'espère qu'il va lui apprendre la vie.
Je pense que tu voulais dire Konaté, j'imagine. Ou c'est vraiment Konaté, il y a quelqu'un que je connais pas qui s'appelle
Konaté.
Konaté.
Ouais, ça doit être Konaté. Bah, j'en parlais.
Ok.
Ouais, Konaté serait une superbe
C'est
chose
cher.
aussi.
Hein.
Ouais. C'est
En plus,
l'avenir, mais
lui.
ouais, c'est très cher.
Et en plus, lui, pour le coup, je connais des gars de son quartier et il a quand même une certaine attache avec le Paris Saint-Germain. Pour le coup. Mais je pense pas qu'il viendra.
Bah, en fait, utilisateur, avant, t'as même pas pris le temps de créer un pseudo. T'as laissé ton Samsung comme nom d'utilisateur. Je sais pas si t'as vu, l'été dernier, on a déjà pris une amende parce qu'on n'était déjà pas dans les clous. Et là, on est encore en sursis. Je crois qu'on a 60 millions à payer, je crois, si on n'est pas en équilibre au 30 juin. En dehors de ça, là, on a 15 à 20 millions de budget pour recruter cet hiver. Donc, je vois pas comment on achète Konaté avec ça, à part si on fait comme le Barça, il a fait avec Coutinho. Et on dit à Liverpool, voici 20 millions et on vous donne le reste l'année prochaine. Et puis l'année d'après, on leur dit, on vous donne l'année prochaine. Et Coutinho, il a dû être payé en 6-7 ans. Je sais même pas s'ils ont fini de le payer. C'est n'importe quoi.
Paye-moi 24 fois sans frais.
Les leviers du Barça.
Ah, les fameux leviers.
Ah, les leviers de vitesse. Alors,
Skriniar.
j'ai vu
Non,
un truc tout à
Skriniar,
l'heure.
si. Skriniar, déjà, on le voit en Ligue des Champions. Il est très solide. Là, le match contre Naples, vous avez vu Naples, ils fessent tout le monde en Serie A. Ils fessent tout le monde. Qui c'est qu'ils n'ont pas fessé? L'Inter. L'Inter les a battus 1-0 là récemment. Ils n'ont pas pris de but. Il avait Kvaratskhelia sur son côté, il l'a mangé. Il a fait un gros match. Skriniar est très très bon.
Vous savez, ce qui me tue, c'est que moi, vous savez que j'étais très content de la vraie Fabien Ruiz et je pense qu'il peut toujours apporter au Paris Saint-Germain. Mais ce qui me tue, c'est que tu prends le cas Fabien Ruiz. Naples est incroyable depuis que Fabien Ruiz est parti.
Ouais,
Tu
c'est ce qu'ils ont dit les pages fans.
vois? Naples... Et tu vois, ça m'énerve parce que je l'ai défendu. Ah, c'est quand même Fabien Ruiz. Voilà, ta propagande quand même, elle me fait tanguer du navire, hein, t'abuses. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui disait faut dégager Neymar du club. Si tu fais partir Neymar pour reconstruire avec l'argent que tu vas récupérer derrière, oui, c'est intéressant. Mais faire partir Neymar pour faire partir Neymar, pour moi, sportivement, ça n'a aucun sens. Si tu fais partir Neymar pour que tu vas reconstruire derrière, en sachant que tu gardes Messi une saison de plus ou deux saisons de plus pour que ce soit ton numéro 10, tu sais que Messi va partir dans quelques saisons. Et donc derrière, avec l'argent que Neymar va pouvoir apporter, tu vas reconstruire un collectif, etc. derrière, pas de souci. Et tu gardes Messi en numéro 10. Mais si tu veux faire partir Neymar parce que vous en avez marre de Neymar, etc., sportivement, ça n'a aucun sens. Vaut mieux faire partir Messi qui est beaucoup plus âgé, on va dire. Tu vois, mais c'est mon avis.
J'ai juste une question pour Rekoba. Tu as enfin acheté un tabouret ou ça fait 1 heure et demie que tu es debout?
Ça fait 1 heure et demie que je suis debout là. C'est pour ça que tu as vu petit à petit, je suis comme as. J'ai
Les
commencé
gars,
à
re
réfléchir.
re regardez, regardez Rekoba, il reste 1 heure et demie debout pour vous. Franchement, s'il n'y a pas 100 likes sur la vidéo, limite, je vais devoir vous appeler des ingrats parce que là, c'est dur. Le mec, il sacrifie son dos pour vous. Il va avoir une scoliose.
Mais
Et
comment
on
ça,
vous
100
demande
likes?
juste de mettre un like, les gars. Un like,
Moi,
ça
je
vous
veux
prend
150
même
likes,
pas
les
une
gars. Moi,
seconde.
je veux
Vous êtes
150 likes.
140.
140, je veux 150 likes et je veux au moins 15 abonnements, les gars, à la page. Alors, les questions ensuite. 15 abonnements, hein. Oui, je veux 15 abonnements, les gars. Je suis exigeant. C'est comme ça, c'est comme avec le Paris Saint-Germain, je suis exigeant avec les joueurs. Il part pas Neymar, il a un contrat de fou. Alors attention, le contrat de Neymar, il est sorti dans les médias. Alors moi, j'aime pas parler des salaires parce qu'à chaque fois, on nous balance des chiffres à droite à gauche. Je prends le cas de Marquinhos, des fois c'est 15 millions, des fois c'est 8 millions, des fois c'est 10 millions, des fois c'est 14 millions. On ne sait jamais le salaire des joueurs. On ne le sait jamais. Sauf que Neymar, il y a une info qui est réelle parce que ça a été à demi-mot, comment dire, enfin, en gros, Leonardo avait pratiquement confirmé l'info, c'est que Neymar, il a un salaire dégressif au fil des années par rapport à son contrat. Donc, en fait, il ne sera pas à 38 millions comme il était à son arrivée ou 30 millions comme selon les versions. Mais chaque année, ça baisse en fonction de son âge et de son niveau.
Bah moi je l'aurais bien fait jouer Navas demain, mais je pense qu'il va mal le prendre.
Il joue demain, je crois. Hein. Il joue en plus. J'ai vu une compo probable. Il joue, je crois. Et à ce qui paraît, ouais, Al Nasser va le prendre là pour 6 mois, apparemment. C'est ce que j'aurais vu.
C'est intéressant ce que tu dis, Frédéric. Barré, tout à l'heure, tu parlais de l'envie des joueurs et Neymar qui te dit que son meilleur souvenir, c'est la remontada, alors que quand il dit ça, il joue chez nous. Alors ça, c'est autre chose. Moi, je parle sportivement. Si tu parles d'affect, personnellement, par rapport à plusieurs choses qui se sont passées avec Neymar, j'étais très longtemps dans sa propagande jusqu'à l'année dernière. Là, globalement, moi aussi, j'ai envie que Neymar parte. Mais sportivement, si on parle d'envie, c'est pas celui qui manque le moins d'envie. Hein. Je suis désolé, mais Neymar et Messi, on le taxe souvent sur ça. Mais c'est des mecs sur le terrain qui montrent beaucoup d'envie au Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non. Les mecs,
Il choisit un peu trop ses matchs, mais dans les grands matchs, en tout cas, il a souvent été là quand même.
ils choisissent leur match, mais globalement, eux, ils ont envie d'avoir le ballon, ils ont envie de faire progresser le ballon. Et tu regardes autour, il y a très peu de mouvements pour les accompagner aussi. Donc sur l'envie, je ne vais pas tacler ces mecs-là. Sur la première saison de Messi et sur la saison dernière de Neymar, oui, c'était le cas. Cette saison, je trouve quand même que c'est différent. La preuve, Messi arrive et son premier match après son retour de la Coupe du Monde, il avait faim. Et ça s'est vu.
Pour ou contre la prolongation de Messi?
Ça,
bah, Barry, regarde sa montre, ce sera la dernière question, les gars.
Bah non, du tout, c'est parce que j'ai reçu un message.
Pour ou contre. En fait, c'est pas que je suis pour ou contre, c'est que pour moi, il faut qu'il y en ait un qui parte. Voilà. Pour moi, on serait meilleur si on avait une vraie équipe avec une star ou deux. Je trouve que 3, ça nous met un peu trop dans la sauce collectivement. Je trouve qu'on n'est pas assez solide parce qu'ils ne défendent pas, parce que aussi, des fois, voilà, ils choisissent un peu trop leur match, on l'a dit. Ça met un peu les milieux dans de l'inconfort. Les milieux dans l'inconfort mettent les défenseurs aussi derrière dans l'inconfort. Je trouve que collectivement, on n'est pas assez solide avec les 3 de devant. Maintenant, voilà, on mange Gucci quand même quand on voit le match comme le Haïfa. C'est sûr qu'on est tous très contents. Mais je trouve que voilà, ça nous met un peu trop dans la sauce. Donc personnellement, c'est pas par rapport à Messi, mais même par rapport à Neymar ou à Mbappé. Pour moi, il faut qu'il y en ait un ou deux qui partent. Et comme en fait Messi, c'est celui qu'on parle de prolonger et c'est le plus âgé, je trouve que ce serait peut-être mieux de ne pas le prolonger. Voilà. Je pense.
Bah oui et non, moi oui et non. Si tu veux prolonger Messi, alors si tu veux prendre l'idée que j'ai donnée tout à l'heure, vendre un joueur pour pouvoir reconstruire, à deux joueurs qui ont une valeur marchande des trois, c'est Kylian Mbappé et Neymar. Messi n'en a pas vu qu'il est en fin de contrat. Donc il n'a pas de valeur. Donc les deux qui ont une valeur, c'est Kylian Mbappé et Neymar. Si tu as envie de construire autour de Kylian Mbappé, puis dans tous les cas, Kylian Mbappé, c'est un joueur d'avenir, et c'est un joueur actuel et d'avenir. Forcément, il va falloir que tu vendes Neymar. Alors moi, je ne suis pas convaincu que Kylian Mbappé va rester 5 saisons chez nous encore. Hein. Je pense qu'au bout de la deuxième saison, même peut-être cet été, il va commencer à avoir des rumeurs qui ont déjà recommencé d'ailleurs. Mais globalement, si tu veux reconstruire derrière, prolonger Messi en sachant que tu libères Neymar pour avoir un chèque et pouvoir reconstruire derrière, c'est pas débile. Parce que Messi actuellement, sportivement, il est encore au niveau, qu'on le veuille ou non. Ça deviendra ton numéro 10 et qui va pouvoir accompagner les joueurs avec en plus un collectif qui va être un peu plus fort si tu vends Neymar pour pouvoir avoir un chèque. Maintenant, prolonger Messi pour le prolonger en gardant les trois, non, pour moi, ça n'a aucun sens. On parle souvent de sportif. Non, moi, ce n'est pas le sportif. Hein. Au niveau du sportif, Messi, il est performant. Moi, c'est plutôt dans la cohérence sportive. On parle souvent de projet sportif. Moi, je parle plutôt de cohérence sportive.
Exactement.
La cohérence sportive, les trois, non. Les trois ensemble, oui, c'est très bien individuellement. Oui, cette année, ils ont encore des stats très bonnes. Mais comme j'ai dit, ça bride les joueurs autour. Et ça t'oblige à aller chercher certains profils de joueurs et pas d'autres. Alors que je pense que si tu libères un des joueurs, tu perds une individualité forte, tu perds de nombreux buts. Mais si tu corriges ça par un collectif, bah, ça rend plus fort ton équipe.
Ok, bah sur ces bonnes paroles, j'espère que vous avez apprécié les 1h30. Comme j'ai dit, on va faire que du format comme ça maintenant, plus de vidéos pour l'avenir proche. Donc je vois que vous avez kiffé, j'espère que ça va continuer. On va essayer de faire le prochain épisode samedi et travailler quelques petits sujets pour vous faire kiffer. Merci Rekoba, merci Barry. J'espère que vous avez kiffé également.
Ici. Ouais, j'ai kiffé, hein. Moi franchement j'ai kiffé.
Et n'oubliez pas que ici c'est
Paris, l'équipe.